Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast 382 déjà. Oh là là, oh là ça ne rajeunit pas, vous les entendez avec
c'est
nous.
Énorme.
Il y a Carole.
Salut.
Qui aime les choses énormes, il y a
oh, oui.
Julo qui aime les choses encore plus énormes, et il y a Camille qui aime les choses, mais alors giga énormes, et d'ailleurs il va nous en parler tout à l'heure, on va faire
J'aime bien les gros obus.
C'est vrai, on va en parler justement dans le premier thème de ce podcast. Il y en aura 4 aujourd'hui, hein, non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4. Le premier, évidemment, effectivement, ça va parler d'obus, ça va parler de Battlefield 1, que tu as eu l'occasion d'aller voir et dont le trailer nous a un petit peu retourné le cerveau parce que y avait des rumeurs comme quoi c'était un peu de, comment dire, de Première Guerre mondiale, mais peut-être uchronique, voilà, des invasions extraterrestres.
Garder le secret jusqu'à.
Et en fait, c'est arrivé, c'est du 100% Première Guerre mondiale. On va en parler tout à l'heure. On va savoir même si c'est pas un petit peu le fossoyeur de Call of Duty. On parlera de vidéos YouTube essentiellement. Pour ça, deuxième thème, c'est The Witcher 3, Blood and Wine, le DLC, l'extension de The Witcher 3, la dernière aventure de Geralt de Rive, qui va sortir maintenant. On a la date de sortie le 31 mai prochain. J'ai eu l'occasion d'y jouer pendant 3 heures et c'est pareil, je vais vous expliquer pourquoi. Et bien, ça risque d'être une des expériences les plus incroyables de l'année. Thème numéro 3, on va en parler avec Camille, c'est Overwatch, qui lui aussi, bah décidément, c'est le retournage de cerveau de tous les côtés. Lui, il a retourné complètement Rudy, qui est devenu un fan acharné.
Il était même avant de commencer à y jouer, je crois.
Je pense que même en y jouant,
il était à fond.
C'était encore pire en y jouant.
Je pense que Overwatch a convaincu beaucoup de joueurs, mais avant sa sortie. Donc,
Il arrive le 24 mai, on va en parler tout à l'heure, encore une fois, et on finira avec Battleborn, un autre FPS qui lui a mis plus de temps avant de nous intéresser vraiment. Et toi, Carole, visiblement, t'as plutôt bien aimé.
J'avais été assez séduite. Enfin, on va en parler.
D'accord, on va en parler tout à l'heure. Mais avant ça, et avant évidemment de passer à nos hors-jeux hebdomadaires, eh bien, nous allons nous tourner vers Julo, car Julo, tu es le symbole du win de la semaine.
Bah, ça fait plaisir parce que d'habitude j'ai les fails.
Et bah, cette semaine, tu vois, j'ai décidé de changer.
J'en ai marre des boues et tout ça. Donc là, j'ai des applaudissements et je suis heureux donc de vous parler de. Grande surprise, Uncharted 4.
Alors c'est bizarre, c'est quoi ce jeu?
Et alors pourquoi est-ce qu'on parle d'Uncharted 4 dans les...
Bon, on en a pas assez parlé, je trouve.
Dans les wins pour
faut
cette semaine.
Bah
non, pour d'abord un petit trait d'humour qui nous a vraiment vraiment plu. Il s'agit de la rédaction de videogamer.com, un site de jeux vidéo américain. Pourquoi? Eh bien parce que bon, alors ils ont publié leur critique d'Uncharted 4 et ils font partie de ceux qui n'ont pas mis les notes maximales ou quasi maximales. Ils ont mis un 8 sur 10.
Oh là là.
Et ils ont fait donc un test à l'écrit et en vidéo. Et suite à la publication de ces deux tests, il y a eu une espèce de vague de commentaires extrêmement négatifs et on va dire peu avisés de la part d'énormément de monde qui est de fans absolus qui supportaient pas la moindre critique au sujet d'Uncharted 4. Et
évidemment, des critiques qui étaient émises avant même que eux puissent avoir le jeu entre les mains.
Voilà, c'est toute l'idée. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est que plutôt que de laisser courir ou de répondre d'une manière un peu premier degré, bah, ils ont fait une réponse totalement second degré en publiant une lettre d'excuse totalement ironique, évidemment. Et elle est totalement
fantastique.
Franchement, on a bien rigolé. D'abord parce que l'idée même est très drôle. Et en plus, dans l'exécution, c'est très drôle. Donc, vous allez sur videogamer.com et vous cherchez Uncharted 4 Review an Apology. Donc, Uncharted 4, le test, nos excuses. Et si vous parlez pas anglais, je vous ai traduit quelques bonnes
lecture Fabrice Lucchini.
Tu
peux quelques bonnes phrases qui
tu peux nous faire Fabrice Lucchini en même temps que tu lis ou pas?
Non, j'y arriverai pas. Merde. Je suis très mauvais en imitation. Tout ce que je sais faire, c'est l'orgasme qui se finit avec des pleurs. Mais ça, je
fais pour que tu nous le fasses un jour en direct, hein, sans déconner. Hein. Tu fais tellement bien.
Donc je vous lis la lettre qui a été écrite par le rédacteur en chef et qui explique donc au moment de la publication, nous pensions que nous avions produit une bonne critique. Et là, je vous cite que des passages, j'ai fait des petits raccourcis. Hein. Cependant, il semblerait que nous soyons finalement trompés sur le cas Uncharted 4 et que des problèmes flagrants concernant notre test ont fait surface. Alors là, tu te dis, bon, tu comprends pas trop encore l'ironie du truc, mais elle arrive, t'inquiète. Comment se peut-être avec l'erreur la plus grave, avoir une opinion? Notre directeur éditorial Tom Horry a immédiatement contacté Steve pour lui demander des explications. Nous sommes au regret de dire qu'il n'en avait pas. Et en y repensant, il réalise lui-même qu'avoir des opinions opinion et avis sur un jeu auquel il a joué des dizaines d'heures était une erreur d'un point de vue éthique et moral et tout simplement stupide. Et
c'est
il continue.
Bon,
même si nous avons puni Steve en le frappant avec des bâtons et l'avons obligé à rejouer à Uncharted 3, il a tout de même trouvé la force de demander à ce que vous ayez l'obligeance d'accepter ses sincères excuses. Et il en vient au fait après dans cet article, dans cette lettre au lecteur. Il aurait plutôt dû faire des recherches et trouver des vrais avis de la part de gens réellement avisés, les commentateurs de YouTube. Et il conclura un peu plus tard dans cette lettre qui est assez longue, qui est vraiment tordante et qu'on vous recommande encore une fois d'aller lire. Encore une fois, nous regrettons ces erreurs et à l'avenir, dans le but d'éviter d'autres partis pris, Steve ne sera plus autorisé à donner son opinion sur des jeux auxquels il a joué et vous non.
Et ça voilà. Finit par un.
Et ça finit évidemment par un. Mais bon, voilà. Notre petit coup de cœur de la semaine, notre petit thumbs up, revient donc à Video Gamer. Et puis, pour rester sur Uncharted, c'est également le winner de la semaine parce que, au-delà de ce 8 sur 10 qu'il a pu avoir sur ce site et peut-être d'autres, il a plus ou moins fait quand même une unanimité très 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 flagrante avec un Metacritic qui s'élève quand même à 94%.
Ça va être dur de le rattraper.
C'est très rare, hein, 94% sur Metacritic, c'est énorme. On a nous-mêmes sur Gameblog fait un petit sondage après la première journée qui vous a permis à vous joueurs de tous horizons
oui,
d'y jouer.
Bon, certains ont pu y jouer bien avant,
on vous a demandé de mettre votre propre note et à 53% vous avez répondu 10 sur 10, à 23% 9 sur 10, à 13% 8 sur 10 et puis le reste c'est des...
un bon cadeau régali,
voilà,
comme on disait à l'époque de la roue de la fortune.
Voilà. Donc voilà pour Uncharted 4 qui est
d'ailleurs,
indéniablement
peut...
un winner accompagné de Video Gamer.
On peut d'ailleurs rajouter que le 10 de Carole est totalement mérité. En tout cas, de son point de vue, il n'y a même pas besoin de se poser la question. C'est son ressenti à elle. Et l'ayant terminé depuis la semaine dernière, où j'exprimais des craintes par rapport au début,
des
gros doutes, je le redis. Après, Romain a eu l'occasion aussi. Il n'est pas là pour le dire, mais lui ne lui aurait sûrement pas mis 10 sur 10, mais il a quand même apprécié. Traz l'a fini aussi. On en discutera sûrement dans une vidéo.
Ah, mais ce qu'il faut préciser, c'est le fait de l'avoir fini.
Oui, me fait changer tout
bah oui, parce qu'apparemment, c'est comme effectivement voir le début d'un film et avoir un avis. Il faut quand même voir.
Non,
la
moi j'avais des craintes surtout. J'avais pas d'avis, j'avais juste des craintes par rapport à ce
qui se sont du coup. Un petit peu
totalement évaporé.
J'étais assailli par les doutes.
Voilà.
Mais pour ma part, je n'ai pas encore commencé à y jouer parce que vous avez tous.
Mais tu as déjà une opinion. Tu lui mets combien?
Ah bah moi je lui mets zéro quoi.
D'accord.
Direct.
Bah oui,
un zéro
pointé.
C'est
correct.
Bah j'y ai pas joué, donc je suis quand même la personne la plus avisée. Demandez à la rédaction de Video Gamer.
Très bien. Voilà. C'était notre petite encart sur Uncharted 4 auquel nous vous conseillons largement de jouer et c'est peut-être le meilleur Uncharted de la série de mon point de vue. Même si je reste encore scotché sur le 2, il faudra que je rejoue au 2 un peu plus en profondeur. Le 2 ça a été une étape majeure.
Bah disons
ouais,
et dans le jeu vidéo
tout
de manière générale avec
un
rythme incroyablement maîtrisé
qu'aucun jeu n'a jamais atteint.
Ah, franchement un rythme incroyable.
Mais maintenant on va passer au fail de la semaine, ou plutôt j'ai envie de dire Carole le choc de la semaine.
Le choc de la semaine qui concerne Disney.
Ouais.
En effectivement la licence Disney Infinity s'achève.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien écoute, apparemment, alors on comprend mieux déjà pourquoi effectivement Disney avait annoncé son absence lors de l'E3 2016 au mois de juin. Effectivement, donc la licence s'arrête plus globalement effectivement Disney
Interactive. Regardez ces petites figurines à la fin. Finition incroyable.
Bah oui, c'est vrai qu'ils sont.
Disney se retire du développement de.
Ils se retirent
des jeux pour ses licences.
Exactement. Ils n'éditeront plus de jeux vidéo. Alors, ils signalent quand même effectivement que d'autres éditeurs pourront reprendre leurs licences au passage. Mais eux, en tout cas, s'arrêtent. Il y a eu 147 millions de dollars de pertes. Ils annoncent aussi au passage la fermeture d'Avalanche.
Le studio
également,
qui s'occupait
studio,
de.
Absolument, c'était. Ouais. Je crois qu'il me semble que c'était. Avalanche, c'était pas Mad Max, il me semble. Il me semble que si.
C'est Avalanche, t'es sûr que c'est Avalanche?
Il me semble, vous me corrigerez si je me trompe.
Je crois que c'est pas Avalanche le nom du studio.
Je ne sais plus. En tout cas, mauvaise nouvelle.
Moi, je relis Avalanche à Just Cause.
Oui, moi aussi, Avalanche, c'est soit Just Cause, soit Xenoblade.
Ouais.
Donc,
c'est
peut-être Just Cause. C'est un des deux studios là.
Et c'est dommage parce qu'on en discutait avec Romain et c'est vrai qu'on voit pas mal de petites figurines. C'est la mode, notamment chez Nintendo. Nintendo. Mm-hmm. Et pour le coup, comment dire, les figurines Disney avaient une réelle utilité, un réel usage. Elles sont jolies.
Elles sont mortelles.
Et puis c'est dommage parce que quand même.
Enfin, quand t'as Disney, quand t'as Marvel, quand t'as Star Wars, tu te retrouves à dire que finalement ça vend pas assez et que c'est pas assez porteur au point carrément de sabrer le studio.
D'autant plus qu'avec le troisième épisode qui est sorti donc à la fin de l'année dernière, dans la période de Noël, c'était septembre.
Ouais, c'est plutôt vers septembre, je crois.
D'accord.
Et après, plus tard.
Mais dans tous les cas, ce troisième épisode avait véritablement relevé le niveau par rapport aux deux premiers, qui étaient un peu imbitables, un peu chiants, etc. Là, ils ont développé véritablement les histoires de Star Wars. Étaient super bien. C'était des vrais bons jeux que tu débloquais avec simplement donc les figurines. Mmh. Et puis tu avais la Toy Box qui était toujours aussi puissante et beaucoup mieux expliquée, beaucoup plus facile à prendre en main. Ils avaient clairement monté d'un cran la qualité de leur jeu avec Disney Infinity 3. Mmh. Donc c'est dommage.
Bah oui, c'est
un
plus que dommage.
C'est dommage, ouais. Puis Disney, enfin ça fout un coup. Et c'est vrai qu'on a vu ça, c'est apparu un soir subitement sur la toile. C'est toi, Plumeau d'ailleurs, qui avait localisé.
Moi je l'ai juste vu, moi c'est tout.
Localisé la news, et c'est vrai que ça fait un petit peu de peine. Il me semble que ça, comment dire, que ça engendre le licenciement de 300
personnes. Oui, à peu près 300
personnes.
Ouais.
Ce qui est quand même fort triste. C'est toujours triste de toute façon quand un studio ferme ses portes.
Oui, d'ailleurs, ça me fait penser les gens de chez. Ah, ça y est, le studio de Firewatch, si quelqu'un peut me le retrouver le nom, là comme ça, ça y est, ça me reviendra pas. Là...
Machin.
Ah,
ces trucs.
Vous le savez.
Bon,
vous le savez
chez vous. Sur le bout de la langue aussi. Ouais. C'est Santo Campo.
Santo Campo Studio. Bravo. Qui sont exprimés d'ailleurs sur le sujet en disant qu'ils ouvraient leurs portes aux personnes qui allaient être licenciées.
Ils vont prendre 300 personnes pour
développer
le prochain jeu indé.
En tout cas, ils faisaient appel.
Ça
fera un AAA, ça. Ah ouais, ils faisaient appel officiellement sur Twitter pour essayer de voir, pour les aider, parce qu'effectivement, 300 personnes, ça fait beaucoup.
Surtout que c'est très étrange quand on sait l'argent qu'a rapporté un film comme Star Wars 7.
Bah, ils se font un max de thunes avec Star Wars, mais bon, apparemment.
Quand t'es une grande boîte comme ça, tu fonctionnes pas par compartiment. Ouais. Tu acceptes de pas perdre de l'argent quelque part parce que t'en gagnes autre part.
Et en même temps, 147 millions de dollars de pertes, c'est ce qu'on disait, c'est pas énorme pour eux.
Pour eux, c'est un cure-dent.
C'est pas si énorme que ça. Pour nous, oui, ça semble gigantesque, mais finalement, pour eux, c'est pas grand-chose. En tout cas, voilà, c'est quand même très triste.
C'est très triste. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus joyeux maintenant.
Ouais, voilà, c'était le fail.
On va passer à quelque chose de totalement plus joyeux. Si vous entendez un peu la musique qui passe derrière.
C'est pas vraiment très joyeux.
Ah si, c'est super joyeux. Attends, Euro 2006, Coupe du monde 2006. Coupe du monde 2006, l'Italie gagne.
Moi j'ai complètement oublié ce qui s'est passé.
Seven Nation Army. Pour le trailer de Battlefield 1, en fait c'est une version remaniée de Seven Nation Army des White Stripes. C'est le Glitch Mob Remix qui a servi pour le trailer de ce Battlefield 1 qui était dans les tuyaux depuis un petit moment. Hein.
Véritable ovation pour ce trailer d'ailleurs.
Ouais.
En fait, on a été invité à la Battlefield World Premiere donc à Londres, et c'est vrai que dans la salle c'était la grosse folie à l'annonce du trailer. Donc comme vous avez sûrement pu le voir sur Gameblog et ailleurs, donc ça se traite de la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. Alors il y a eu un nombre incalculable de rumeurs sur le jeu, même très tôt, il y a vraiment
genre 2 heures avant, c'est une uchronie.
Alors déjà il y a à peu près un an, il y avait des grosses rumeurs comme quoi ça serait la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est vrai qu'il y avait une grosse demande de la part des joueurs. On veut un Battlefield 1942, soit un remake HD, soit un nouveau jeu tout simplement. Parce que là, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale est très porteuse et les gens en réclament de plus en plus. Et bien finalement, grande surprise, ce n'est pas la seconde, c'est la première. Donc c'est vrai que quelques heures avant, il y a eu des rumeurs comme quoi ça serait un monde uchronique sur la Première Guerre mondiale avec un peu du steampunk. Mm-hmm. Notamment ce qu'on a vu, on l'a vu dans le trailer, le teaser qui est paru de 10 secondes juste avant l'annonce officielle du trailer. Mm-hmm. On a vu un énorme zeppelin, les gens s'est dit oui, mais c'est pas possible, c'est uchronique, c'est steampunk, ça n'existe pas, etc. On a vu des. Et finalement, il s'avère que pas du tout, c'est une Première Guerre mondiale en bonne et due forme. Et d'ailleurs, tous les éléments qu'on y voit dans le trailer et que j'ai pu voir aussi dans les vidéos de gameplay qui ont été présentées.
Ah oui, t'as eu droit à ce petit privilège.
J'ai eu droit à une vidéo assez sympathique. Alors, une vidéo qui présente l'enregistrement du son des armes, parce qu'il faut savoir que le studio DICE est énormément performant sur les sons. On l'a vu dans Star Wars Battlefront, on l'a vu dans les Battlefield précédents. Mm-hmm. Les sons, vraiment, c'est une grosse notion, c'est un gros travail dessus. Donc là, ils ont publié, ils nous ont dévoilé une petite vidéo là-dessus. Donc comment ils ont enregistré le son des armes dans pleine forêt. Ils ont testé une dizaine d'armes de cette époque, bien plus, mais dans la vidéo c'était une dizaine d'armes. Ensuite ça a enchaîné sur une autre vidéo de gameplay donc, que vous n'avez pas encore pu voir en public. Donc dans cette vidéo de gameplay on a vu notamment alors des armes, beaucoup d'armes. On a vu ça m'a permis aussi de voir des chars d'assaut de différentes factions. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai pu faire ce dossier que vous avez peut-être lu sur Gameblog.
Comment il s'appelle ?
À notre analyse historique du trailer de Battlefield 1. Donc en effet j'ai pu en tant que grand amateur d'histoire je me suis permis de
et
faire
parce qu'il faut le préciser, tu
collectionnes les armes chez toi. Et...
Non, c'est pas ça. Il fait du tir.
C'est génial.
Je fais du tir sportif.
Du tir sportif avec des armes de la seconde guerre, de la première guerre mondiale.
Avec des armes de la seconde. De la première guerre mondiale.
Donc t'as déjà tiré en vrai avec les armes qu'on a vues dans ce trailer.
Effectivement, tiré avec certaines des armes qui ont été dévoilées dans le trailer. Et
voilà, on a un military otaku à la rédac. Vous savez maintenant.
Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que je suis un passionné d'histoire, donc j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir.
Je me permets juste de t'interrompre. Tu collectionnes les trucs, les collections Del Prado, genre les meilleurs Panzers.
Je suis pas à ce point-là. Non.
Ok, donc tout va bien. Parce que j'allais appeler les flics.
Je suis pas à ce point-là.
Ok.
Mais non. Donc,
mais
oui,
presque.
Donc, pour revenir à ce fameux trailer, ce trailer off de Battlefield 1. Ah oui, déjà, le titre qui a aussi beaucoup fait parler, beaucoup fait jaser, pourquoi Battlefield 1 ? Alors tout simplement parce que les développeurs ont l'expliqué pendant cette preview. En fait, c'est la première guerre mondiale et pour eux, et d'ailleurs pour les historiens, une genèse de la guerre moderne. Donc Battlefield 1, c'est la première guerre moderne. Et donc,
c'est celle où c'était le plus sale aussi. Hein.
D'ailleurs dans le trailer, on a pu le voir et dans ce que j'ai vu aussi, c'est extrêmement sale.
Les premiers gaz moutarde.
La guerre de base est très sale. Hein. On ne va pas
sûr
là-dessus, mais
la première était particulièrement.
Celle-ci est particulièrement sale dans le sens où elle a été, elle a permis. C'est un peu un champ de comment dire d'innovation. Ça a permis beaucoup d'innovation militaire, médicale aussi. Mais ça, c'est venu.
Les chars, c'est une partie hyper importante.
Alors oui. Les premiers chars d'assaut qui sont apparus en 17. D'ailleurs, le premier char d'assaut, c'est un char Renault, faut le signaler, un char français. Il y a les premiers aussi, l'horreur des gaz, donc les gaz moutarde, le fameux gaz moutarde qui a fait mourir énormément de monde et qui en a aussi handicapé une grosse partie. Parce que en fait, le gaz moutarde ne tuait pas, vraiment. En fait, il détruisait les poumons, il brûlait les yeux. Donc, énormément de gens sont devenus aveugles et sont ressortis de cette guerre avec un seul poumon.
C'était une guerre très cruelle en
c'était
fait.
Une guerre très cruelle, mais on en reviendra un peu pour le hors-jeu parce que j'ai mon hors-jeu
n'en dis pas trop.
Le premier char plus, était français je crois que les Allemands avaient une avance terrible sur les chars français.
Les Allemands n'avaient aucune avance. Ça c'est la seconde guerre mondiale. La première guerre mondiale, les Allemands n'avaient pas du tout d'avance technologique sur les véhicules, à tel point que justement ils capturaient nos chars d'assaut français et ensuite les chars d'assaut anglais sur le champ de bataille pour les retourner contre notre camp en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que dans le trailer on a vu des chars, on a vu des chars anglais, beaucoup de chars anglais, des chars ottomans, parce qu'il faut savoir que pendant la première guerre mondiale l'empire turc qui était à l'époque appelé empire ottoman était allié à l'Allemagne et à l'empire austro-hongrois, donc ça fera partie des ennemis de l'Angleterre et des États-Unis. Il y a aussi une chose qui a beaucoup fait jaser, c'est l'absence potentielle de l'armée française. On a vu dans le trailer, on a pu voir un casque Adrian, donc vous savez, c'est le fameux casque bleu horizon de l'armée française. Mais il faut savoir que ce casque était utilisé aussi par les Italiens. Et les Italiens sont justement, tu vas être content, mon cher Plumeau, apparemment une des nations jouables dans ce prochain Battlefield.
Mais pourquoi vous me regardez ? Je suis français, hein.
T'es français, mais t'as une chemise noire.
Non, elle est bleu marine.
Bleu marine.
On sait déjà d'ailleurs qu'il y aura une map qui se passera en Italie, donc dans les Alpes. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour un Battlefield, ça va un peu
ça
changer
va varier un petit peu,
du sempiternel Irak, Afghanistan,
mais
etc.
Sniper Elite, le prochain Sniper Elite aussi se passe en Italie d'ailleurs.
Le prochain Sniper Elite se passe, alors là ça sera la Seconde Guerre mondiale, mais se passe aussi pendant sous le régime fasciste de Mussolini. Et donc pour revenir à Battlefield encore une fois, parce que là on dérive beaucoup.
Oui c'est vrai.
Beaucoup de dérives historiques, mais oui c'est vrai que les lieux qui ont été confirmés, donc il y a l'Italie, il y a la France, Mais malgré tout, on ne sait pas si la France sera là comme faction, parce que la France sera là comme champ de bataille, mais l'Angleterre et l'Allemagne se sont battus en France. L'Angleterre, c'est sûr et certain qu'elle y sera, parce qu'on a vu des chars, on a vu des soldats, etc. Et on a peur que cette nation soit ajoutée en DLC. Donc ça serait, c'est vrai que ça serait un comble, un jeu sur la Première Guerre mondiale où la France soit, disons,
mise de côté
alors que l'Italie, qui a, désolé de le dire, et pas énormément participé à cette guerre.
T'as rien à dire. Moi, ma famille avait déjà commencé à se barrer. Hein,
voilà,
tout ça, donc,
L'Italie et non, les États-Unis aussi qui ont participé, mais très tardivement à cette guerre, parce qu'ils sont arrivés qu'en 1917. De dire que ça sera une des nations qui sera là dès le début du jeu et que la France en soit absente, ça serait.
Mais d'ailleurs, le personnage principal qu'on voit dans ce trailer.
Alors, il n'y a pas de personnage principal. Il faut savoir qu'on a.
Il y en a un qu'on voit beaucoup plus que les autres.
Ah oui. Alors, de ce personnage n'a pas spécifiquement de nom. Par contre, il y a un personnage qui a une importance. C'est le personnage que vous avez pu voir sur la couverture du jeu, donc un personnage de couleur noire.
Mm-hmm. Donc, je pense que c'est un noir américain.
Un noir américain.
Qui fait partie des...
C'est ça qui a confirmé d'ailleurs la présence des États-Unis. C'est qu'en fait, il y a un régiment qui s'appelait les Tigers, mm-hmm. les Black Tigers. Et en fait, c'était un régiment noir américain qui a participé à la première guerre.
Qui en première ligne pour.
Voilà. Mm-hmm. Qui ont été un peu comme les régiments, les tirailleurs sénégalais en France.
Ouais,
qui ont été, envoyé
au casse-pipe, oui, on peut le dire.
Au casse-pipe, mais de toute façon, au casse-pipe, et en même temps, ils ont en fait, ils étaient au même niveau que les soldats français, puisque en fait, ils sont côtoyés, ils sont battus en même temps sur les premières lignes, les tranchées. C'est ça, en fait, qui est important de préciser, c'est qu'après la guerre mondiale, tout le monde était au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de priorité de la nation comme il y aurait pu avoir à la Seconde Guerre mondiale. Non, la première, c'était vraiment tout le monde au même niveau, c'est-à-dire que les tirailleurs sénégalais, les Algériens, etc. ont participé sur le champ de bataille
aux côtés des Français
et
des Français de souche.
Ça dérive complètement, pardon, hein,
justement. Faut pas voir cette dérive raciste qu'il y a pu avoir à la Seconde Guerre mondiale, où il y avait un peu cette césure entre l'armée française pure et l'armée française
des colonies.
Là, il y avait pas du tout ça. C'était, on est au même niveau. Il y avait une grosse camaraderie entre les Français. Et, à cette époque-là, tout le monde se considérait comme égaux. Il y avait pas toute la thématique raciste arrivait bien après. Donc à ce niveau-là. Donc,
moi, je bois totalement tes paroles et j'aimerais que ça continue. Mais je crois que les gens sont en train de se dire. Ouais, mais sinon Battlefield.
Ouais, c'est possible. Vous pouvez le voir pour les membres premium.
Mais c'est super intéressant.
Cette fameuse affiche avec un noir américain qui a fait beaucoup d'ailleurs parler, dans le sens où on pensait que c'était une uchronie, puisque le personnage est habillé avec un grand manteau, etc. Mais c'était des manteaux d'époque. C'est d'ailleurs le fameux trench coat. C'était ça. Ça vient de là, parce que c'est un manteau de tranchée. Donc les États-Unis, ça c'est sûr, la nation y sera. L'Angleterre, l'Allemagne évidemment, on la voit dans le trailer. L'Italie apparemment aussi. Et donc la France, on verra.
D'accord, mais en termes de jeu, du coup.
Ouais, parle-nous de la. Parle-nous
des chevaux,
toi, t'as vu une vidéo que personne n'a vue.
On a vu.
T'as vu une vidéo de gameplay en plus.
Alors,
que personne n'a vu.
Donc Battlefield oblige, il y aura des véhicules. Et grande première, pour la première fois dans un Battlefield, on aura la possibilité de conduire, enfin pas conduire réellement, mais de monter des chevaux.
C'est génial, donc ça c'est fantastique.
Ça c'est d'ailleurs, on a une charge présente assez épique dans le trailer. Ça c'est une grande première, parce que c'est vrai que c'est comme l'ont précisé les développeurs, comme c'est une transition entre la guerre moderne et le monde ancien, les chevaux ont une énorme importance pendant cette guerre. Et donc on voit une femme qui sera d'ailleurs un des personnages qui sera jouable dans la campagne solo, plusieurs personnages qui seront jouables. Il y a notamment une personnage qui est apparemment une ottomane. Donc il y aura des charges de cavalerie. On ne sait pas encore si les charges, on pourra conduire les chevaux comme un véhicule à la Battlefield, ou si ça sera un chemin prédéfini, vous savez, comme on peut voir.
Oui, ça serait du tir sur rail.
Voilà, mais donc on ne sait pas vraiment à ce niveau-là. Les développeurs ont été vraiment muets comme des tombes à ce niveau-là, donc on ne sait pas vraiment. Sinon, il y a aussi des grosses nouveautés, notamment l'arrivée du gaz. Donc ça va être une grosse notion importante.
Bien sûr.
Je l'avais précisé dans la preview. Parce qu'on aura l'utilisation obligatoire des masques et gaz, donc évidemment, qui viendra si le trailer est véridique et si les développeurs continuent dans ce sens. Ils n'étaient pas non plus sûrs à 100% de ce qu'ils allaient faire pour le produit final, mais apparemment, le masque et gaz obstruera la la vue, la vue. Ça permettra d'avoir une notion de gameplay supplémentaire et un peu ajouter un côté hardcore.
Mais alors, dans la vidéo de gameplay que tu as vu, est-ce que c'était comment dire, alors, c'est du... est-ce que ça t'a pris au trip ou pas quand tu l'as
ça
vu?
M'a pris, de toute façon moi dès le trailer donc ça c'est la vidéo que vous avez pu voir, c'est la chose qu'on a vu nous aussi au premier. Dès ce trailer, moi j'ai été pris au trip. Et ensuite, pour le second trailer qu'on a vu, ça
est-ce que tu peux nous le décrire ?
Qu'amplifier cet effet, c'est-à-dire qu'on a vu notamment une bataille dans les Alpes, donc en Italie. Mm-hmm. Donc c'est cette partie-là qui a énormément plu au public d'ailleurs, parce que la Première Guerre mondiale, c'est pas uniquement une guerre tranchée, il y a aussi des assauts par petites escouades. Mm-hmm. Notamment, on l'a vu dans les Alpes, et ça c'était vraiment assez bluffant. On a vu aussi énormément de destruction de décors, parce qu'il y a eu une destruction poussée, ça c'est une grosse demande des fans, les gens demandaient.
DICE est spécialisé dans le
domaine. En même temps, pour Battlefield 4, pour ceux qui ont touché, c'est vrai que la destruction de décors était beaucoup moindre que celle de Battlefield 3, mm-hmm, et beaucoup moindre que celle de Bad Company 2.
Mais alors, tu vois, moi j'ai beaucoup plus joué à Call of Duty qu'à Battlefield, ouais, effectivement, mais il me semble que le gameplay et tout l'univers du jeu, d'une manière plus globale, a été vachement enrichi.
C'est ça.
Enfin, c'est super, quoi.
Ça a été enrichi, et donc, je confirme un peu ta question, parce que j'ai pas.
Ça a été considérablement enrichi, il y a plein de choses en plus, il y a plein de nouveautés.
C'est ça en fait, c'est que
ça a été affiné. Ouais.
Ce qu'on est sûr, c'est que chez DICE, c'est que chaque nouvel opus. Alors après, entre le 3 et le 4, c'est vrai qu'il y a eu des petites gueulantes à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'était pas forcément une grosse évolution, mais on peut en général être sûr que pour DICE, quand il y a un nouveau jeu qui sort, il va y avoir une grosse évolution au niveau des maps, au niveau de l'armement, etc. Et là, c'est vrai que la première gamme de passer de l'époque moderne, donc vraiment même moderne et vraiment presque futuriste, parce qu'on c'était quand même les années 2020, passer de ces années-là à la Première Guerre mondiale, ça va permettre d'avoir un gros vent de fraîcheur sur le gameplay.
Bien sûr. Et les armes.
Déjà, il y a les armes automatiques, malgré qu'elles soient présentes, c'était essentiellement des armes à verrou. Donc on va plus mettre en jeu la précision. D'ailleurs, ça fait
et leur chargement aussi, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Hein.
C'était assez. Bon, c'était pas non plus la lenteur d'une tortue. Hein. C'était quand même assez rapide, mais disons que. Il y a aussi une grosse part d'inquiétude de la part des joueurs, c'est que les gens se disaient oui, mais si c'est la Première Guerre mondiale, on va pas avoir de modification d'armes, parce que c'est vrai que comme pour Call of Duty, Battlefield, c'est une grosse importance du gameplay où on débloque des accessoires, on débloque des viseurs, etc., Vucatrix, viseur laser, machin. Et c'est vrai que
c'est un aspect qui est séduisant.
Cet aspect-là est séduisant, mais il sera encore présent pour évidemment à échelle moindre, parce que la Première Guerre mondiale oblige. Mais on aura des camouflages, on aura les premiers viseurs qui sont apparus, on va pouvoir modifier nos armes.
Personnaliser quand même un minimum.
Voilà, des chargeurs, etc. Parce que comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'était un banc d'essai la Première Guerre mondiale, donc on va pouvoir, c'est même si j'en suis sûr à 100%, c'est d'ailleurs été précisé, pouvoir accéder à des armes qui étaient au stade de prototype. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir débloquer des choses, il y aura beaucoup de déblocages, ça va être assez... impressionnant comme ça l'était dans les précédents opus. Donc faut pas non plus s'inquiéter à ce niveau-là du changement d'époque.
Et on pourra également effectivement bombarder les côtes.
Voilà, on va pouvoir. Alors ça, c'est pareil.
Aux commandes d'un navire.
Alors il y a une rumeur il y a quelques temps, parce que c'est vrai que même si on l'a vu dans le trailer, on va pouvoir commander un cuirassé. Donc ça, on sait pas si c'est véridique ou pas. C'est vrai que dans Battlefield 1942, c'était le cas. Donc pourquoi pas un retour aux vraies batailles navales, parce que c'est vrai que ça a été abandonné totalement. La bataille navale a été totalement abandonnée depuis Battlefield 1942. Donc pourquoi pas, à cette époque là il y avait une grosse importance des cuirassés, donc selon une rumeur d'un site chinois, il y aurait potentiellement la possibilité.
Mais vous ont rien dit.
Mais ils nous ont rien dit.
Ce serait tellement génial, ça ajoute un aspect tellement plus d'envergure.
C'est vrai que du coup
c'est fantastique,
c'est,
ça.
Et pour le coup c'est vraiment une guerre mondiale, donc guerre totale. Et c'est vrai que il y aura, comme vous l'avez pu le voir, la guerre dans les airs.
Ah oui, j'allais y venir justement.
La guerre
aussi,
dans les airs aussi. Alors là, grosse nouveauté. Dans ce sens où il n'y a pas de parachute à cette époque-là, donc Battlefield, le parachute c'était un peu un élément essentiel. Même les gens en abusaient, c'est-à-dire qu'on sautait d'un building et puis on prenait le parachute pour amortir.
Oui, dans les biplans c'était assez difficile de passer à travers les ailes.
Voilà.
Ouais.
Et puis de toute façon, un biplan, il n'y avait pas de ceinture, donc c'était assez compliqué à ce niveau-là. Et le biplan, c'est pareil, faut pas non plus s'inquiéter à ce niveau-là. C'était assez rapide, ça pouvait quand même aller jusqu'à 200 km/h. Donc à ce niveau-là, pour un Battlefield, c'est parfait. Bien au contraire, ça sera même plus impressionnant que pour les jets modernes. Et en plus de ça, faut savoir que
faut faire attention à ce qu'il cale pas.
Voilà, on pourra monter à deux dans les avions. Et ça, c'est une grosse première.
C'est-à-dire mortel.
On pourra monter à deux et même à plus, puisqu'il y a aussi des bombardiers qui ont été confirmés. Et dans ces bombardiers, on pouvait monter à 4 ou 5. Donc ça aussi, grosse nouveauté.
Ça me donne envie de me mettre à Battlefield. Hein. Voilà. Moi, bah,
on en discutera après, Carole, pas de problème. On va en parler.
Mais tais-toi pour l'instant. Non, hein.
je vois à quoi tu veux faire référence, on va en discuter juste après.
Donc c'est, et puis voilà, pour conclure là-dessus, c'est vrai que les batailles aériennes sont très impressionnantes dans ce sens-là.
Rien à comprendre, Gélo, t'étais bloqué.
Ouais,
t'étais
voilà,
bloqué.
C'est ça.
Vous reverrez chez vous, hein, si vous êtes prêts, même
si
vous regardez la vidéo.
Regardez ces images.
Gélo était bloqué. Voilà, désolé Camille.
Voilà, c'était très drôle.
C'est pareil, niveau gameplay, maniabilité des avions, c'est à cette époque-là, c'est assez impressionnant dans le sens où les avions étaient extrêmement maniables. D'ailleurs, encore aujourd'hui, vous savez, pour les spectacles,
les shows aériens,
de vol, les shows aériens, etc. Il y a encore des biplans très fréquemment qui sont utilisés. Donc ça va être une grosse session de gameplay. On va pouvoir faire des belles pirouettes, des belles figures en l'air. D'ailleurs, dans le trailer, on en a vu. Et voilà, donc ça confirme que du bon pour ce Battlefield. On attend d'en savoir plus quand même pour voir vraiment du vidéo, du on zone, du gameplay pur et dur. Parce que là, c'était du gameplay, mais pas joué en direct. Donc on attend de voir vraiment ce que ça donne à ce niveau-là. Et moi, en tout cas, je suis déjà conquis rien que pour l'époque. Donc n'hésitez pas à suivre sur Gameblog, on sera là pour vous en parler.
Ça sort quand? Pardon.
Le 21 octobre 2016
sur PC, Xbox One,
jouable
et
en avance,
PS4.
D'ailleurs.
Aucune version évidemment Xbox 360 et PS3. Ils ont totalement abonné.
Et jouable 3 jours avant, effectivement, le 18 octobre sur Xbox One.
Voilà.
Donc on confirme Carole.
Et une bêta qui sera présente normalement une semaine ou deux semaines avant la sortie.
Et ben dis donc, juste
sur Xbox
le
One seulement ou la démo aussi? Enfin la.
Comment?
La bêta. Ça sera sur Xbox d'abord aussi.
Xbox One et PC.
D'accord.
Ouais.
On va faire un détour justement par ce que Carole commençait à suggérer, à savoir, est-ce que d'après toi,
le match,
il y a, tu sais, je pense que tu as suivi l'actualité aussi sur YouTube.
Oui.
Effectivement, puisque
le faux procès de
Battlefield a droit à peu près tous les pouces verts de l'univers, et pendant que Call of Duty, lui, avec son trailer futuriste, s'est mangé, et ben il est quoi dans les 5 vidéos les plus détestées de YouTube.
C'est quand même dingue, c'est quand même un.
Avec plus d'un million.
Mais est-ce que c'est justifié un truc comme ça?
Alors je me permets, avant de te laisser prendre la parole, pour moi c'est pas du tout justifié. Et en même temps, c'est compréhensible. Ça fait des années que les fans demandent un retour à la Première ou Seconde Guerre mondiale, notamment la Seconde Guerre mondiale.
Oui, mais bon, est-ce que c'est pas un peu exagéré comme genre de sanction ?
Évidemment, c'est exagéré. Et en même temps, aujourd'hui, on peut plus non plus trop se fier. Aujourd'hui, tout le monde la dislike, la vidéo, c'est devenu la mode, donc on peut. Voilà.
D'ailleurs, je suis pas allé, tu es bien.
Non,
je
plaisante.
C'est du bashing.
Voilà, là, ça devient du bashing, mais effectivement, au début, ça m'a pas vraiment surprise que Call of se fasse déglinguer, même si c'est triste, parce que moi, c'est une série que j'aime énormément. Mais là, n'empêche que je suis quand même beaucoup plus séduite par ce Battlefield que par Infinite Warfare. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les Call of, on a un cycle de développement qui dure 3 ans. Donc je pense qu'effectivement, quand les mecs ont commencé à bosser sur Infinite Warfare, il y a 3 ans, on n'en avait pas, les fans n'en étaient pas à ce degré de blasitude concernant l'environnement futuriste. Donc on peut pas forcément leur reprocher non plus d'être parti sur ce chemin, mais effectivement c'est trop, c'est injuste. Moi je pense qu'il faut attendre d'avoir les deux jeux en main pour pouvoir donner un avis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui suis amoureuse de Call of, je suis totalement séduite par ce Battlefield.
Donc tu es beaucoup plus hypée par Battlefield. Bon Camille, voilà. Je te pose même pas la question, non. Puisque toi tu as eu l'occasion de le voir tourner, mais j'imagine que Battlefield t'a un peu plus séduit, ne serait-ce que pour son époque.
C'est ça, mais c'est vrai que c'est à double tranchant pour les pauvres développeurs de Call of Duty. C'est que moi j'ai vu le trailer, je suis pas du tout fan de la franchise Call of Duty, j'y joue pratiquement jamais, mais j'ai pas trouvé du tout ce trailer désagréable. C'est vrai que c'est un faux procès. Donc, en fait, c'est vraiment une lame à double tranchant, dans le sens où non seulement Battlefield a fait un énorme coup de hype là-dessus, un gros buzz. Et en plus de ça, c'est vrai que, comme disait Carole, les fans, même les fans purs et durs de la licence Call of Duty, commencent à se blaser eux-mêmes.
Ils s'auto-blasent.
Voilà, ils s'auto-blasent de ce qu'ils aiment, en fait. C'est-à-dire que le futuriste, c'est vrai que ça commence à être vu et revu, et en plus les thématiques de gameplay sont pas énormément changeantes dans Call of Duty, et certains fans pur hardcore qui défendaient corps et âme le jeu il y a encore quelques années commencent à retourner leur veste et à se dire oui, mais ça commence à devenir un peu lourd là. Et donc moi je trouve que c'est quand même un faux procès. Faut quand même vraiment attendre de voir le jeu pour s'en faire un avis définitif. La trailer est pas du tout dégueulasse, hein, ça donne
c'est
quand
clair.
Même envie.
Non, mais c'est
et puis est-ce que la hype va donner raison aussi en termes de vente,
Non, mais ça se vendra toujours mieux.
En général, Call of Duty se vend très bien, surtout qu'avec un Modern Warfare. Offert.
C'est ce qu'on disait, c'est ce qui va
toujours,
jouer. Hein.
Ouais. Les choses peuvent s'inverser, oui, peut-être pas sur cet épisode, mais.
Mais effectivement, j'ai pas trop de doutes quant aux ventes sur mais ce
Call of Duty. Je pense qu'il y a une tendance qui va véritablement s'enclencher, se vérifier.
C'est pas impossible
cette année.
C'est sûr. Ouais, ouais. Julo, est-ce que tu as été disliké la vidéo, toi, d'ailleurs?
Pas du tout.
Ah bah écoute, fais ton taf de fan de Battlefield, s'il te plaît.
Non, mais en fait, il y a par contre un point positif qu'on n'a pas énormément parlé, c'est quand même qu'il y aura une édition de Modern Warfare qui est publiée avec.
Ah oui, si, on vient de le dire à l'instant. Ça fait partie des choses.
C'est ça qui va un peu sauver aussi le truc.
C'est le gros bonus, en fait. Il y a des gens qui sont prêts à acheter le jeu rien que pour ce remake, en fait.
Bien sûr, évidemment.
Enfin, ce remake, c'est pas un remake vraiment,
c'est une réédition.
C'est une réédition HD, quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que.
Mais là, il y a un boulot de fou dessus. Hein. Je sais pas tu as vu les images. Il y a un très beau boulot. Moi, c'est clair que c'est ce qui me donne. J'ai plus envie de rejouer à ce Modern Warfare qu'à Infinite Warfare. Mais bon.
Bah, d'autant qu'on jugera sur pièce quand ce sera sorti. Julo, de ton côté, t'es plus Battlefield
japonais,
ou Call of Duty après
ou...
les trailers?
Au niveau des trailers,
au niveau des trailers uniquement.
Non, mais moi je ne joue ni à Call of Duty ni à Battlefield, donc je suis un très mauvais observateur.
Voilà.
Ou alors je suis un observateur lambda, on va dire, un mec qui regarde ça de loin.
Exactement.
Bah, donc c'est toi le meilleur juge, alors justement.
Bah alors moi je suis beaucoup plus hypé par Battlefield pour le côté historique.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Je me suis régalé des explications de Camille sur. Sur justement le côté historique de la chose. Voilà.
Parce que tu es très intéressé par l'histoire, toi aussi.
Effectivement.
Et tu aimes bien nous spoiler ce documentaire entier, d'ailleurs, au passage. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de ce premier thème consacré à Battlefield 1. Et nous allons passer maintenant à Battlefield 360, donc la version d'avant. Non, je plaisante. Nous allons passer au thème numéro 2, qui est une fois de plus consacré. Juste à moi, c'est moi qui vais parler tout seul comme la dernière fois avec Orion ou personne.
Hors de question.
Ah, tu vas donc t'exprimer un petit peu aussi.
Attends, je vais te contredire tout le temps. Dès que tu vas dire un truc, je dirai le contraire.
Tu vas parler de The Witcher.
Je vais parler de The Witcher 3 Blood and Wine.
Là, je suis super intéressé.
C'est vrai ?
Oui.
Comment ça, là, je suis super intéressé ? T'es en train de dire que quand t'as bloqué sur Battlefield 1.
Non, je suis beaucoup plus intéressé.
Ah, bon. Et pourquoi ?
Du jeu en lui-même.
Pourquoi, dis-moi ?
Bah parce que je trouve que The Witcher, c'est un jeu qui a fait profondément avancer le schmilblick en termes de narration dans un jeu, on va dire, classique. Mm-hmm. En plus, il est splendide, il est différent au niveau de la patte artistique. Et, donc, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé.
D'accord.
Et je crois savoir que avec ces charmants développeurs de CD Projekt Red, ils ne comptent pas faire un DLC au rabais, mais plutôt presque prolonger l'expérience avec presque un vrai nouveau jeu.
Et ben, ça fait un peu comme pour comment ça s'appelle, merde, ça y est, j'ai oublié le nom du jeu qui est sorti en
Witcher.
Non, Dying Light.
Voilà.
The Following. Vous voyez, Dying Light The Following.
C'est pas
vraiment un petit DLC ou un petit add-on, c'est vraiment une extension qui pourrait être un jeu complet, hein, je pense. Alors, on a des promesses pour l'instant de la part de CD Projekt en termes de nombre d'heures de jeu, de quêtes, etc. À savoir qu'il y aurait 90 quêtes, 40 nouveaux points d'intérêt, un système de points d'intérêt dynamique. Par exemple, vous allez tuer un camp de bandits, et ça va avoir un impact sur les camps de bandits autour. Toutes ces choses-là que j'ai pas pu spécialement vérifier, mais pour le reste, ni la trentaine d'heures.
Mais ce qui existait déjà plus ou moins dans The Witcher 3.
Pas exactement, non.
Bah, moi,
quand tu allais nettoyer un village, t'avais juste les villageois qui revenaient. Et c'est tout, ça s'arrêtait là. Et peut-être à la limite une boutique qui ouvrait.
Non, mais moi je te parle plus dans le scénar, la narration, oui. les connexions entre les différentes quêtes. Mmh. Au moment où tu fais quelque chose, c'est su par
ça avait pas un impact gigantesque.
Ben si, parce que
là c'est censé en avoir beaucoup.
T'as un feedback, t'as un retour de ces gens-là qui te parlent de ce qui s'est passé, par exemple.
Oui, des gens, mais pas en termes de, comment dire,
de systémique.
Voilà, c'est pas aussi aussi ample.
Ouais,
voilà, que ce que nous promet Blood and Wine, auquel donc j'ai pu jouer environ 3 heures. C'était séparé en deux sessions. La deuxième session, en fait, était consacrée au fait que Geralt avait droit à son propre domaine, qu'il allait pouvoir exploiter, habiller avec toutes les armes, toutes les armures, tous les bouquins qu'il a récupérés au cours de l'aventure et qu'on n'a pas vendu, hein, qui servent à rien en fait. Une fois qu'on les a récupérés et que c'est dépassé par d'autres armes, d'autres armures et qu'on a lu les bouquins, ça sert à rien, c'est juste dans ton inventaire et tu les revends. Là, tu peux les stocker et même habiller carrément ta demeure avec. Tu pourras customiser ta chambre d'amis pour faire venir des gens. Alors visiblement c'est
pas
plus...
du tout intéressé pour ça.
Justement, ça va faire venir un nouveau scénar.
Le truc qui m'a gonflé dans The Witcher, c'est la complication à l'excès de tout un tas de systèmes de craft de...
C'est ce qui fait le
moi je me laisse porter par
jeu,
l'aventure les dialogues
Bon, alors pour ce qui est du craft, évidemment il y aura des nouvelles choses à récupérer, il y aura un système de mutation. Tu te rappelles dans
ça
The Witcher,
ça me donne tellement envie de m'y remettre.
tu te rappelles dans The Witcher 3 qu'il y a des mutagènes qui à la fin ne te servent quasiment à rien. Ben là tu pourras les utiliser justement pour créer encore une des nouvelles mutations qui vont te donner d'autres bonus. En termes de jeu, ça va faire un peu comme Hearts of Stone, c'est surtout que ça va te donner des nouveaux bonus à chaque fois, genre plus d'agilité, récupération de stamina à tel endroit, etc. Bon, c'est pas ce qui va vraiment faire le sel de Blood & Wine, c'est plutôt tout ce qu'il va proposer, à commencer déjà par la première chose importante, c'est la région de Toussaint. C'est toute une nouvelle région, donc une map qui est gigantesque, hein. Les développeurs, eux, nous avaient dit que ça représente à peu près un quart de la région de Velen, c'est-à-dire la carte principale de The Witcher 3 Wild Hunt, ou alors carrément le regroupement de toutes les îles de la zone de Skellig. Donc ça fait une surface qui est quand même énorme à parcourir. Et dans cette surface énorme, eh bien, il n'y a plus la même ambiance visuelle que dans Wild Hunt. C'est plus tout Europe de l'Est, grise, poisseuse, dégueulasse, on marche dans la boue tout le temps. Et c'est affreux à regarder parce que tout tombe en ruine, etc. Là, on est dans un univers qui est beaucoup plus coloré.
C'est l'Italie.
C'est plus luxuriant. C'est
exactement. C'est plus Italie de la Renaissance ou sud de la France, période Renaissance. C'est plus joyeux, c'est plus chaleureux.
Plus ensoleillé. Oui.
C'est plus ensoleillé, voilà. Bah,
et
c'est
le
un
vin.
Peu...
Le vin, parlons du vin.
Le bon vin.
Il y aura du vin, c'est sûr, il y aura du vin. Et c'est, comment dire.
C'est plus élégant, disons, comme.
Ça fait un peu Gérald part à la retraite dans le sud de la France, quoi.
C'est ça, quoi.
C'est un peu ça.
Est-ce qu'on pourrait... Ils vont peut-être utiliser ça comme quote. Hein. Faudrait leur proposer.
Non, je pense qu'ils mettent derrière. Ils en chopperont une autre de mes impressions vidéo. Vous avez pu voir sur Gameblog, à savoir qu'il devenait enfin propriétaire comme la Fouine. Il devient propriétaire. Voilà.
Non, mais c'est ça la quote.
La quote. La quote. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais oui, il devient propriétaire un peu comme la Fouine. C'est ce que j'ai dit. Oui. Ah oui, parce que la Fouine est propriétaire.
Ça ne nous étonne pas de toi.
Toujours est-il donc que la map est gigantesque, qu'on va se retrouver dans une histoire après avoir été interpellé donc dans la région de Velen, on va se retrouver dans une histoire de monstres à chasser donc pour la duchesse de Beauclair, enfin de toute la région de Toussaint, Anna Henrietta. Si vous avez lu les bouquins, c'est un personnage haut en couleur hein, qui notamment a été l'amante d'un des compagnons de route de Geralt que vous connaissez bien normalement, qui lui est très présent dans le jeu. Il y a comme d'habitude des quêtes, celles que j'ai pu faire qui étaient assez étoffé, hein. Comme d'habitude, il n'y a pas d'évidence quand on réalise une quête, il n'y a pas de tout est noir, tout est blanc, il y a toujours des petites suppositions, des petites des petits moments de flottement, de doute sur qui a fait telle action réprimandable, à quel endroit, enfin bon. Je peux pas en dire trop non plus parce que je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais il y a souvent une part d'occulte et le fait que Geralt ne tue pas forcément des monstres parce qu'on lui a demandé de le faire. C'est un sorceleur qui a une conscience et vous aurez
et
un libre arbitre, absolument. Et vous aurez la possibilité, notamment au tout début, hein, il va y avoir un monstre injustement enfermé par la duchesse que vous allez pouvoir l'affronter. Et d'ailleurs, on nous donne des indices sur comment l'affronter dans les cinématiques. Il faudra faire très attention à ça parce que sinon vous risquez de galérer un petit peu, en plus d'avoir évidemment dans sa fiche de perso savoir comment, quelles armes lui font plus mal, quelles potions, quelles huiles, etc. Quelle magie aussi. Eh bien, il faudra regarder un petit peu dans la cinématique s'il n'y a pas une méthode pour l'affronter. Vous aurez le choix de le tuer ou pas.
Je peux caser une question ou...
Dis-moi.
C'est une suite directe à la
ça
fin
passe,
de The Witcher 3.
Ça se passe après The Witcher 3, oui.
Après.
Ouais.
Et d'accord, donc c'est pas comme les DLC dans d'autres jeux où tu peux y jouer même si t'as pas fini.
Là, il vaudra mieux être bien avancé dans le jeu, l'avoir fini et puis être niveau 30-35 à peu près.
Parce que ça reprend absolument tout.
Ouais.
D'accord, c'est comme une suite quand même.
Ouais, ah oui, ça se passe après, c'est certain.
Tu y as joué sur quoi ?
On y a joué sur PC. Ça s'est très bien passé, c'était très joli à regarder. Et alors, il semblerait qu'ils ont encore amélioré un tout petit peu le moteur pour un rendu un peu plus propre encore. Les différents... Alors, j'ai pas pu affronter ce géant que vous voyez là, si vous êtes premium. J'ai affronté ce géant, pardon.
Genre de 3
géants. Ah, ça t'a marqué ?
Oui, si, j'ai affronté ce géant. Mais c'était un combat qui était très court. Hein.
Tu l'as congelé comme ça ?
Non, je lui ai fait mal. Mais on a joué, faut le dire, on a joué en facile. Parce que...
Moi, j'ai joué à The Witcher 3 en facile.
C'est vrai ?
Je le dis, sans aucun problème.
Mais je joue souvent, moi. je fais souvent les jeux en facile.
Bah ça dépend en fait. Quand l'intérêt vient d'autre chose, ça me dérange pas d'y jouer en facile.
Ouais, voilà. Bon, alors on était obligé parce que la difficulté était pas réglée. Mmh. Donc du coup, on l'a joué en facile. Et oui, je viens de me rappeler qu'effectivement, on se fait ce petit géant à un moment.
Un beau ciel bleu là. Hein,
les combats n'ont pas trop changé.
Presque turquoise, ouais.
Le maniement du cheval de Hablet est toujours pas optimisé. Il y avait quand même une petite séquence inédite de course avec des.
On est un peu en Corse même presque là.
Presque ouais. Avec des, comment dire, des cibles en plus, avec un espèce de bullet time au moment où tu sur ton arbalète pour avoir ces cibles en même temps que tu fais ta course. C'était un petit truc. On va dire un petit truc annexe qui était plutôt rigolo. Le truc qui va être important en plus, en plus du fait que ça va être une grande aventure avec des retours, une histoire qui va, je pense, faire frissonner clairement les fans des bouquins, ceux qui ont lu les 7 premiers romans, vous allez être aux anges, je vous le dis tout de suite.
Mais on est récompensé par le jeu d'une manière générale quand t'as lu les bouquins.
Ah oui, c'est une récompense gigantesque. Mmh. Je pense que ceux qui connaissent les livres vont être vraiment, mais alors vraiment aux anges. Et donc le truc qui va être important aussi, c'est que cette version va s'accompagner d'un nouveau, d'une nouvelle refonte de l'interface qui va être beaucoup, mais alors beaucoup plus claire, que ce soit chez le marchand, que ce soit pour la gestion de l'inventaire, ça va être incroyablement plus clair. Ils ont fait un classement par onglet.
C'était pas compliqué en même temps.
Oui, c'était pas compliqué, c'est sûr.
Pas, hein, quand je critique
ton jeu préféré. Ah non, mais c'est moi, ça faisait partie des choses qui font que je n'ai pas pu lui mettre la note maximale. Hein, voilà.
Les menus.
Ouais, ils étaient assez pénibles, là ils ont été changés. Mm. Et on a pu avoir un avant-goût du coup. Et ça va apporter, je pense, un peu plus de clarté aussi.
Ça va changer les menus, ça va agir comme une espèce de mise à jour.
Ça sera une mise à jour, oui.
Et changer les menus du jeu principal aussi.
Oui, oui. D'accord. Absolument. Et donc, du coup, ça va être beaucoup mieux.
C'est vrai.
Et oui.
C'est vrai que le manque de lisibilité, ça peut effectivement être.
Ça te gâche une expérience. Moi, je suis en train de rejouer à Vagrant Story suite au Super Retro.
Toi, tu racontes tranquille. Hein.
Non, mais c'est pour dire, on a fait quand même d'énormes progrès depuis cette époque sur les menus, parce que dans Vagrant Story, c'est assez imbitable aussi. Hein. Franchement, c'est des menus ultra complexes dans lesquels tu vois pas bien, notamment. Et ça, c'était pareil dans The Witcher 3. Mm-hmm. Quand tu veux t'équiper d'une nouvelle arme, d'un nouveau bouclier ou quoi. La différence de, tu sais, de niveau, les gains que ça crée sur ton personnage, ouais,
c'est pas
évident,
c'est pas très clair.
Ah,
ouais.
C'est pas clair.
Ouais.
Bah là ça l'est, là tout est clair à tous les niveaux, que ce soit pour le classement des objets qui sont un peu secondaires, que ce soit pour les bouquins, les armures. Alors des armures, il va y en avoir plein, il y aura même des nouvelles armures liées aux écoles du chat, du loup, etc.
Du micro d'argent.
Voilà, l'école du micro d'argent aussi. Bref, il y aura vraiment tout ce qu'on veut en termes de contenu pour le jeu et en termes de narration, en termes d'histoire. Ça va pas être triste non plus. Ça sort.
C'est énorme comment ? C'est genre comme un nouveau 60 heures de jeu ou
C'est une trentaine d'heures.
Ils avaient parlé d'une trentaine d'heures de jeu.
Au départ, ils avaient dit une vingtaine et puis au final,
ça va être vendu. Peut-être vendu. Au prix d'un jeu
C'est vendu 20€ seul. Sinon, si t'avais l'expansion pass, tu l'avais déjà compris à l'intérieur.
Ouais, ouais.
Voilà. D'ailleurs,
ils sont généreux. Hein,
Ils sont plus que généreux parce que c'est paru
ça
aussi.
Ça fait plaisir.
Vous l'avez vu sur Gameblog en news. Ils ont annoncé que pour les personnes qui ont craqué pour les éditions numériques uniquement téléchargeables de Hearts of Stone, la première extension, et celle de Blood and Wine, qui n'ont du coup pas eu droit au deck, au vrai deck physique de Gwent, vous savez, le jeu de cartes qu'on trouve à l'intérieur de The Witcher, qui a un succès fou, hein. Tout le monde veut absolument que c'est des projets qui le commercialisent. Eux, ils s'étaient contentés jusqu'ici d'offrir deux decks dans l'extension Hearts of Stone physique, et ils vont en offrir deux autres dans l'extension physique de Blood and Wine, qui seront donc les Royaumes du Nord et Nilfgaard. Mais t'as joué au moins au jeu de cartes de
The
Witcher ?
Vous avez réussi à me perdre.
Mais non, le jeu de cartes dans The Witcher, t'y as joué ou pas ?
Pas beaucoup, non, j'ai pas.
Mais
par exemple, tu vois, dans FF8, j'avais adoré le jeu.
On s'en fout d'FF8, on te parle de The Witcher, tu
mais
parles
non,
de Vagrant, FF8.
Qu'est-ce que t'as ? Non,
mais t'as un contrat avec Square, qu'est-ce qui se passe là ? Tu nous parles de Vagrant, tu nous parles de FF, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Non, mais moi, le Gwyn, j'ai essayé une fois, ça m'a saoulé, c'est pas mon truc. Voilà,
si tu veux que je me teste, tu le dis.
Les mini-jeux comme ça, c'est comme dans Star Scooter.
Des jeux dans le jeu, moi, en général, ça me saoule, mais je comprends l'engouement autour de, n'est-ce pas, cette occupation.
Bon, bref, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir, si vous les avez commandés en ligne uniquement, récupérer des versions, des... c'est des projets que va vous envoyer en fait les decks de jeux de cartes physiques chez vous. Vous irez voir dans la news assignée.
Ouais, j'allais dire, t'as fait la news.
Exactement. Ah ouais. Et c'est une super idée. Alors ça sort le 31 mai sur PC, PS4 et Xbox One. Oh, et j'espère qu'on va pouvoir y jouer avant, qu'on va pouvoir vous rendre le test avant, parce que ça va mériter beaucoup beaucoup d'heures pour savoir si c'est pas genre la meilleure extension de tous les temps.
Oh. De toute façon, tu lui as déjà mis une note, hein, 10.
Non, 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 j'ai pas mis de note encore.
Non, parce que ça discute.
J'en sais rien, moi j'ai joué 3 heures donc pour
ça
l'instant.
Ça donne envie de s'y remettre en tout cas, parce que moi je m'étais arrêté à peu près à 25-30 heures de jeu sur The Witcher 3, et faute de temps, et ça me donne envie de m'y remettre quoi.
Et bah tu verras quand ça sortira.
De tout,
que...
tout rusher pour enfin pouvoir
faire
Blood and Wine.
Et que le patch 1.12, je crois, donc qui accompagnera Blood and Wine pour changer tous les menus comme il faut, bah avec ça, ça sera beaucoup plus clair pour toi pour continuer.
Absolument.
Voilà. Donc 31 mai sur PS4, PC, Xbox One, on vous en parle très bientôt. On va passer.
Ça tue.
Au thème numéro
c'est commentaire.
3. Bien, Julo, tu as suivi. Je te croyais bloqué, mais qu'est-ce en fait, tu as suivi.
Non, non, j'ai des fulgurances.
T'as des fulgurances. Et pour ce thème numéro 3, je vais me tourner eh bien, à nouveau vers Camille, dis donc.
Et oui.
Parce que Camille, nous allons parler non pas de Battlestar Galactica, puisqu'on croit rien avec la musique, mais d'Overwatch.
Quelle série géniale.
Oui. Overwatch, ouais. Qui a déjà conquis énormément de joueurs avant même sa présentation, finalement. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de fanboys. Bon, c'est vrai que c'est un peu négatif ce terme, mais fanboys de Blizzard. Que bah, ils savaient qu'ils allaient faire un succès. Donc c'est le jeu, c'est déjà un succès avant même sa sortie.
Mais laisse tomber cet engouement autour du
titre. C'est un engouement,
titre,
mais juste hallucinant.
Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est pas un FPS de plus?
Alors,
parce que Rudy, ok, il nous dit oui, c'est génial et tout, il en peut plus.
Mais on le croit pas.
Mais on le croit pas. Exactement.
Il faut savoir que moi, j'ai été. Bah, Blizzard nous avait invité. J'ai pu donc y toucher. J'y avais touché il y a quelques mois. Mm-hmm. Et je suis, bah, comme vous le savez, un grand joueur PC. Et pourtant, j'ai joué à une version PS4.
Ouais.
Et j'ai pris mon pied énormément.
Ah, j'ai réussi à viser quand même, ça a été.
J'ai réussi à viser. J'ai été conquis directement sur une version PS4. Donc c'est vrai qu'il.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ?
Alors, qu'est-ce qu'il a de plus ? Déjà, il a une DA particulière.
Mm-hmm.
Qu'on pourrait penser très proche de jeux à la Team Fortress, comme Team Fortress 2.
Oui, il est beaucoup comparé à Team Fortress, ouais.
Beaucoup comparé à Team Fortress, mais pourtant il a une grosse différence en sens où il a énormément de personnages. C'est ça d'ailleurs qui fait son gros point fort, c'est qu'il possède quand même 21 personnages et il va y en avoir. Ah,
c'est moins que Battleborn.
Ouais, c'est moins que Battleborn.
On va parler après.
Je pense qu'il est. Ouais, j'ai pas touché à Battleborn, c'est vrai, mais j'ai entendu des échos.
On en parlera juste après. Promis, on en parle après. Non, je vous jure, hein, vraiment.
Il faut pas sortir des rails avec
non,
Plumo,
non,
t'as pas compris, Camille.
Et donc 21 personnages, il faut savoir qu'il y en a qui sont prêts, qu'il y en aura en plus après la sortie du jeu. Donc ça a été promis plus ou moins par Blizzard à ce niveau-là. Aussi, la grosse différence par rapport à Team Fortress, qui reste quand même assez classique, c'est-à-dire qu'on a quand même des classes. Là aussi, on a des classes classiques, mais on a tellement de choix différents par classe. En fait, on a quatre classes différentes. On a offensive, défensive, tank et support.
Ouais.
Et dans chacune de ces classes, on a minimum 5 personnages. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal. Et en fait, ce qui est intéressant aussi au niveau du contenu général du jeu, c'est que chacun des personnages a une identité propre.
Mm-hmm.
Donc ça, ils ont beaucoup axé là-dessus. D'ailleurs, il y a des courts-métrages encore qui sortent chaque semaine
pour présenter les personnages et montrer comment on doit les jouer.
Et montrer comment on les jouer. Chaque personnage a une nationalité. On a par exemple Windowmaker, donc je sais pas la traduction française, parce que c'est vrai que j'ai
Widowmaker.
Ils ont fait une traduction.
Enfin, il met des
non, c'est Widow, pas Window.
Widowmaker.
Widowmaker.
Widowmaker, pas celui qui fait les veuves.
Je crois qu'ils l'ont appelé la veuve. Enfin, c'était un nom classique français, mais
la veuve noire.
Ouais, enfin, je sais plus. C'est la française, donc
la veuve Kiko. Ça, c'est plus Julo que ça regarde en général quand on parle de ça.
Alias Amélie Lacroix, nom français.
C'est un méchant personnage préféré.
Amélie Lacroix. Donc un personnage, tous les personnages sont, moi j'en ai testé une dizaine de persos, c'est vrai qu'ils sont tous intéressants.
Mais alors pourquoi est-ce que ça serait mieux que les autres FPS?
C'est pas pourquoi ça serait mieux, c'est que déjà dès le lancement, alors moi j'ai les 10 premières minutes de jeu, tout de suite on sent la patte Blizzard. On sent la patte Blizzard déjà parce que c'est chiadé.
Mais en quoi?
C'est chiadé déjà dans la DA, c'est les graphismes.
D'accord,
sont
la DA, donc tu l'as déjà dit, la DA.
Les graphismes sont propres, les gunfights,
ouais.
Alors dès les premières minutes, on sent que c'est propre aussi. On sent, déjà, c'était une version pré-bêta, aucun bug présent. Bah, déjà, il faut déjà le saluer. Après des jeux comme Diablo 3 qui avait eu des lancements un peu difficiles, on pouvait s'attendre à peut-être certains problèmes. Ils ont bien retenu les leçons. Mm-hmm. Et c'est vrai que les gunfights, donc c'est l'essentiel d'un FPS, ils sont nerveux. C'est ni trop lent ni trop rapide. C'est vraiment dosé au poil. C'est vraiment, je trouve ça vraiment bluffant. Et surtout, j'ai pas ressenti de lassitude. Et ça, pour moi, c'est un point essentiel dans un FPS.
Qu'il y avait que deux modes de jeu hein, pour l'instant.
Il y avait que deux modes de jeu. Alors, on a un mode point de capture et un mode le fameux mode convoi qui est présent dans Team Fortress 2, justement, où on doit escorter
un véhicule
jusque dans la base ennemie. Et le protéger. Et donc c'est vrai que malgré ces modes de jeu assez classiques et traditionnels, j'ai ressenti aucune lassitude. Et ça pour moi c'est le point essentiel d'un FPS, c'est-à-dire que quand au bout de plusieurs heures de jeu on se dit bah putain c'est vrai que finalement j'aimerais bien tester les autres classes, et on prend toujours son pied. Pour moi, c'est
soit on joue à Counter-Strike, soit on joue à Overwatch. Genre.
C'est ça.
T'as déjà décelé un bon équilibrage parce que quand il y a 20 persos différents.
Ça, c'est vrai que c'était une des craintes. C'est qu'on dit, il y a 21 persos. La première crainte, c'est vrai que c'est. Mais est-ce que c'est équilibré? Et bien, justement, en fait, l'équilibrage, certains personnages ne sont pas équilibrés. Mais comme c'est un jeu qui se joue en équipe, l'équipe est d'une. Faut être soudé, c'est d'une importance capitale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une classe support. La classe support, on va avoir des personnages soins, comme Zenyatta, c'est un espèce de moine bouddhiste. Vous l'avez peut-être vu, parce qu'il a beaucoup marqué par son design, qui a des espèces de boules métalliques dans les mains. Il s'en sert comme arme et comme outil de défense et de soins. Mmh. On a des personnages comme ça qui vont être essentiels à l'équipe. C'est-à-dire que si personne ne prend de support. Et ben l'équipe elle va avoir des gros problèmes à pouvoir assurer la défense ou l'attaque, et ça va être une grosse problématique. Donc à ce niveau là aussi c'est assez impressionnant. Et aussi un point non des moindres, c'est les capacités. Chaque personnage possède ce qu'ils appellent une capacité ultime qui permet en fait, par exemple, pour revenir à ce personnage Zenyatta, pardonnez-moi, il possède un pouvoir de méditation qui lui permet de régénérer toute sa vie sans se prendre des dégâts en fait. Donc en fait il est à l'abri des dégâts, et en plus il régénère son équipe et il se régénère lui-même. Donc des pouvoirs en fait ultimes, ça porte bien son nom. Mm-hmm. On a par exemple Bastion, le fameux robot qui peut se transformer en tourelle, et son attaque ultime c'est un mode tank. Donc ça c'est pareil, c'est une attaque spéciale qui fait énormément de dégâts. Ça dure pas longtemps, ça dure 10 secondes, mais ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors, et les attaques ultimes en général, quand un personnage
j'ai l'impression que Poufy nous a lancé pour les premiums une vidéo qui est un petit peu à côté de la plaque et qui parle d'un jeu après dont on va parler après. Même toi tu t'y mets à vouloir parler des jeux dont on va parler après.
Petite erreur,
attention Poufy.
Ça se ressemble énormément, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est exactement la description que Camille est en train de faire. C'est fou, non mais c'est dingue.
Mais on va en parler après. Donc, mais en fait, donc, les raisons qui font qu'Overwatch, c'est la patte Blizzard et le jeu par équipe qui est obligatoire avec des persos,
les classes qui sont en fait. Il y a certains gens qui se contentent d'avoir, comme dans Team Fortress, il y a 4 classes, donc voilà, on prend un personnage, on est tous pareils, on se retrouve, il y a des clones, etc.
Donc
moi,
en fait,
ça me plaît aussi. Hein.
Question très importante, est-ce que ça vaut le coup si on est un joueur plutôt solitaire?
Non.
Donc c'est vraiment un jeu par équipe auquel il faudra jouer.
Disons,
avec potes.
Il n'y a aucun mode solo?
Non, alors déjà oui, il y a pas de campagne solo, hein, c'est uniquement du multi.
Mais par exemple, moi qui suis un habitué qui préfère les jeux en solo et qui je me retrouve imaginons dans une partie d'Overwatch.
Tu vas trouver ton pied parce que dans tous les cas, même si t'es pas au micro forcément avec des potes, etc., tu vas quand même trouver ton pied.
D'accord.
Mais c'est vrai que si en face t'as une équipe qui est soudée, qui est au micro, etc., forcément elle va prendre le dessus. Un moment ou un autre sur ton équipe.
Donc c'est pas un jeu pour le solitaire.
C'est pas un jeu pour le solo, mais tu peux trouver ton pied en solo quand même. Moi j'ai fait des bonnes parties.
Vaut mieux le prendre. Hein.
Prends-le, ouais.
Parce que le trouver c'est pas difficile.
Mais... j'ai
cherché mon pied l'autre jour.
Tu l'as pas trouvé.
J'ai pas trouvé.
Putain, pourtant c'est bon de le prendre. Hein.
Arrêtez de l'embêter, Camille.
Oh.
Non mais honnêtement, le jeu est très agréable en solo aussi. Donc à ce niveau-là, faut pas avoir de crainte non plus. Faut pas se dire catégoriquement non, j'ai pas le prendre parce que c'est accès multi. Les deux, ça marche du tonnerre. Après, c'est vrai que.
Fais attention à ton micro.
Ouais, fais attention à ton micro. On sait jamais.
Faut le garder près de la bouche.
Faut le garder près de la bouche.
Évidemment.
T'arrêtes de répéter ce que je dis.
J'arrête de répéter ce que je dis.
Évidemment, quand t'es en multijoueur, avec une équipe, c'est mieux d'être soudé, mais bon, c'est
d'accord.
Pas... Donc voilà, et puis c'est un jeu qui va être compétitif, ça faut le savoir aussi. C'est un jeu qui est prévu pour ça. D'ailleurs, il y a eu aussi Je ne sais pas ce qui se passe à l'écran.
Il se passe rien du tout, pourquoi? C'est plus la vidéo d'Orcel hein, que je louais comme ça. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Il relève les jambes de manière tout à fait inattendue.
Mais ça, c'est Julo. Hein, c'est... Excuse-nous, Camille.
Pour ceux qui se poseraient encore la question, non, ce n'est pas un free-to-play. Parce que c'est vrai que même Blizzard eux-mêmes, il y a encore quelques temps, ne savaient pas ce qu'ils allaient faire comme mode. Comme mode enfin pécunier financier ouais, ouais. Et finalement non, c'est un jeu
business
tout à fait,
model
tout à fait classique où voilà t'achètes ton jeu et il y a rien
il y aura rien DLC
ah si il y aura forcément il y aura peut-être des DLC mais c'est pas du tout un free to play c'est pas du tout le jeu n'est pas du tout été conçu dans cette optique là donc
bon en tout cas faut l'attendre
il faut l'attendre
ça sort le
effectivement il y a des points communs avec Battleborn Karov va nous en parler tout de suite
gros point commun
micro
oui le micro mais je sais
le
je
micro
sais,
j'essaie de te le dire discrètement Jérémy
le mon nœud mon nœud est emmêlé
le nœud c'est le nœud
et donc ça sort le
et donc ça sort le
24 mai c'est pas ça
le 24 mai ouais. Et donc
sur toutes les machines
bientôt,
une fois de plus
on est, le, bah
on est le 12 non
on est le 12 donc c'est sort très 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 bientôt en même temps exactement le même jour que Total War Warhammer donc voilà.
Je me souviens du jour d'aujourd'hui.
Ouais.
Le jour d'aujourd'hui.
Parce que c'est le lendemain.
Ouais. De la
du
veille.
Jour,
du jour,
du jour,
de lendemain.
Du lendemain
de futur.
Uncharted est sorti.
Ah,
c'est
ouais.
Fou, hein. Bah hier, ouais. On était le 11. Uncharted était sorti la veille, donc on est le 12.
Ah oui, non, mais là, il faut faire une désintox, ouais. Hein, Carola, à un moment.
Ouais, non, mais c'est vrai. Ça a été très dur de me mettre sur Battleborn, je peux te le dire.
C'est vrai ? Tu veux qu'on en parle ?
Non.
On va en parler quand même, hein, pauvre Carole, je suis désolé, mais maintenant que Camille nous a fait part de ses impressions d'Overwatch, on va en parler de Battleborn. Alors, Battleborn, tu nous as fait un test, Carole.
Absolument.
Et tu veux nous dire pourquoi c'est un joli coup.
Parce que vous m'avez payé
mon
pour ça.
Ah, d'accord. Bon, alors c'est bon, alors. Non, mais c'est un joli coup.
Déjà,
pour,
la musique est géniale.
Pour les parents de Borderlands, donc Gearbox.
Exactement, les papas de Borderlands qui se sont peut-être... qui se sont très inspirés de cette licence, peut-être trop même. Là, vous entendez une musique hyper rythmée sur fond de
ouais, celle
hip-hop
de
endiablée, celle de l'intro, qui est vraiment très très belle. Ça ressemble... moi, ça me fait penser au dessin animé. Mm-hmm. Les mondes anglais.
D'accord.
Ça a ce coup de crayon, ça a cette patte, ça m'a fait tout de suite penser à ça, c'est très joli. Donc ça commence effectivement par une intro où on voit donc tous les combattants, ça te met bien dans le bain. Alors ça dure un petit moment, ça doit durer au moins 6 ou 7 minutes, voire plus, et tu ne peux pas la zapper. Donc
ah
il
bon
vaut mieux que ça te plaise. D'ailleurs,
ah
tu
oui
peux pas passer... tu ne peux passer aucune cinématique d'ailleurs dans le jeu, je trouve que ça c'est un peu ballot. Par
bah,
contre...
tu vas faire la... je sais pas, moi je fais la cuisine quand c'est comme ça. Je...
Ouais, mais non, non, non.
Qu'est-ce
voilà
qu'il y a, vous n'avez pas les cinématiques
ce... bah, bah, là c'était un peu trop, c'était un petit peu trop. Dans MGS, ça me va. Là,
et à chaque fois que tu lances le jeu, il faut taper les 7 minutes de.
Exactement. Exactement, ouais, mais... 7 ou 8 minutes, oui, c'est ça, à
non,
chaque
pas
fois.
À chaque fois, j'imagine.
À chaque fois que tu le refais.
Ouais.
Mais effectivement, donc c'est, y a une patte graphique, ça pour moi, la réalisation artistique est vraiment un des points forts du jeu.
Mm-hmm.
C'est vraiment très beau. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tu quand t'entends Camille parler d'Overwatch, eh bien, limite, tu changes juste le nom.
Ouais.
On dirait qu'il parle de Battleborn, à la différence près qu'on n'a pas 21 personnages, on en a 25.
Ah,
qui
24,
auront chacun. Non, non, 25, j'ai 25. Dit 25, mais là, je ne fais pas à l'envers. 25 personnages en couleur que vous pouvez voir là à l'écran. Ils sont tous différents. Ils arrivent tous de factions. On a 5 factions donc, qui luttent et résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et qui vont tenter de sauver la dernière étoile existante dans le système solaire, Solus, donc qui est attaquée par les méchants. Et donc, du coup, ils vont
les
tous
méchants.
Se, les
méchants. Il y a les méchants dans le jeu.
Exactement,
les
vilains,
méchants.
Les vilains,
ouais.
Les Varelsi. Et effectivement, ils vont tous donc s'unir pour lutter contre les vilains. Et ça va être intéressant parce qu'ils ont tous des personnalités différentes. Et puis, ils ont surtout tous, chacun, des attaques, des capacités, des armes différentes. Et chacun a d'ailleurs également
une capacité
ultime.
Ils l'ont appelé pareil ?
L'ultime, c'est une ultime,
d'accord,
exactement.
D'accord.
Donc c'est assez impressionnant, c'est exactement le même jeu, sauf que la patte, effectivement,
ouais.
la direction artistique change vraiment. D'ailleurs, ça pourra peut-être rebuter certains. Moi, elle m'a plu, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé intéressant.
Mais est-ce que tu penses
on a
que...
un mode histoire. Alors, je vais te répondre, vas-y, à la limite.
Est-ce que tu crois, selon toi, le jeu a été victime d'un faux procès aussi ? Parce que c'est vrai que
de...
bah, Battleborn a été énormément critiqué même avant sa sortie et même encore
parce que
par comparaison à Overwatch toujours.
Déjà ça a été vachement comparé fatalement parce que je pense qu'ils se sont vraiment très et trop inspirés peut-être de Borderlands mais en même temps le Gearbox c'est le papa
de Borderlands,
de Borderlands donc tu peux pas non plus le reprocher enfin je veux dire c'est comme si tu reprochais à je
mais
sais
là
pas,
c'est
moi,
des combats c'est des combats comment en fait c'est 5 personnages
alors, exactement, quand
humains
tu joues, donc,
mais il
voilà.
y a des IA autour
exactement donc on va avoir en fait tu vas pouvoir vouloir et devoir même jouer en coop. Mm-hmm. Parce que tout comme Overwatch est un jeu qui est fait pour ça, si tu joues tout seul, tu vas te faire chier. D'accord. Royalement. En plus, on a des boss de fin qui sont assez coriaces, donc il vaut mieux les y jouer à plusieurs. Et en plus, tu vas pouvoir tester effectivement la complémentarité de tous ces personnages. Et c'est un des aspects les plus importants du jeu. Donc c'est vraiment fait pour jouer en coop. En plus, c'est très très fun. J'ai eu l'occasion d'y jouer à Londres, justement, quand j'étais allée faire les hands-on. Donc chez moi, j'ai fait le test toute seule, mais j'ai pu y jouer en coop. Ça n'a rien à voir. Contrairement à Overwatch, on va avoir un mode histoire.
D'accord.
Mais qui est relativement court, qui peut se boucler, qui se boucle en environ 4 heures, puisqu'on a 8 chapitres qui durent à peu près 30-40 minutes selon la manière dont tu vas jouer, selon le niveau, le mode de jeu, le mode de difficulté sur lequel tu vas jouer. Et c'est des couloirs. Ça, d'accord, c'est le problème. C'est vraiment des couloirs.
Tu ne joues que tout seul dans ce mode
Tu joues seul ou à 5. Si tu joues en coop, tu es une team de 5 joueurs.
Ah, donc la campagne peut se jouer.
Exactement,
quand même.
Exactement, absolument. Oui, tu peux décider de faire la campagne en privé ou en public. Et c'est là qu'effectivement, tout l'intérêt du jeu, c'est jouer avec plusieurs personnages vraiment différents pour avoir une complémentarité. Donc quelqu'un qui va un peu plus bastonner, quelqu'un qui va être là pour soigner, quelqu'un qui va être là donc, en soutien. Donc c'est vachement intéressant. Sauf que voilà, c'est des couloirs. Donc tu vas résister à des vagues d'ennemis, tu vas devoir effectivement avoir des tâches à réaliser qui sont souvent répétitives, donc ça peut être très redondant, bien voilà. Sûr, mon plumeau. Au bout d'un moment, remettre des systèmes électriques en marche, désactiver des boucliers pour pouvoir passer et poursuivre sa progression, enfin ça va se ressembler un petit peu à chaque fois, et puis à la fin, un boss de fin. Qui sont pas mal, qui sont bien fichus, c'est assez intéressant. Et donc ça va être un petit peu, malheureusement, un petit peu répétitif et très rapide. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est ce fameux système d'amélioration qui s'appelle le système Helix. Mmh. Moi j'ai trouvé ça très astucieux, je l'ai souligné dans mon test que vous pouvez retrouver sur Gameblog. C'est un système qui va vous permettre de progresser en temps réel. C'est-à-dire que pendant votre évolution, vous allez gagner des points d'XP et vous allez pouvoir ouvrir ce système Helix qui se présente un petit peu comme un brin d'ADN et qui va vous permettre d'évoluer sur 10 niveaux. Il va se remettre d'ailleurs à zéro, ce système, à chaque fois que vous allez recommencer une mission. Et ça va vous permettre de choisir à chaque fois entre deux capacités propres à votre personnage. Donc vous allez voir que les persos vont évoluer très facilement, très rapidement, peut-être un peu trop d'ailleurs à mon goût. Mais c'est assez rythmé, assez dynamique, et j'ai trouvé ça intelligent, c'est assez unique comme système. Et puis on a le mode multi aussi. Le mode multi qui va proposer donc 3 modes sur 6 maps. 6 maps, on a 2 maps par mode. Et moi j'ai surkiffé le mode...
Ça pue le DLC, ça, s'il y a que 6 maps. Hein.
Alors voilà, on va avoir effectivement des DLC, heureusement, on va en avoir 5 qui seront dans les alentours de 5€ à chaque fois.
D'accord.
Et qui vont peut-être un petit peu étoffer ce contenu, parce qu'effectivement, moi j'ai trouvé le jeu génial en termes de rythme, en termes
c'est
de
vrai,
réalisation.
Ça se joue bien,
mais c'est alors, nerveux, c'est intéressant. On a quand même 25 personnages.
Juste pour savoir, parce qu'il y a eu une comparaison avec les MOBA qui a été.
Il
souvent...
y a un petit côté MOBA, effectivement, parce qu'on va pouvoir, effectivement, il y a cette rejouabilité et ces 25 personnages qui vont faire que tu vas pouvoir farmer à mort. Il y a plein d'éléments à ramasser sur le terrain. Il y a du loot énormément. Tu vas pouvoir ramasser des capacités. Tu vas avoir 5 emplacements pour pouvoir, débloquer des compétences passives. Tu vas ramasser également des éclats, des petits éclairs sur le champ de bataille qui vont te permettre de construire des tourelles, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté MOBA qui est
petit
assez
côté gestion
assez,
en plus stratégie, ouais.
Voilà, qui est assez affirmé, qui séduira les amateurs de farming. Après, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le côté dynamique, la réalisation artistique, et puis ces 25 personnages, effectivement, tous différents les uns des autres, mais ça joue en coop, et effectivement, il y a un manque, il y a un contenu que je trouve assez léger, donc vivement les DLC. Mais voilà, je trouve que par rapport à Overwatch, au moins, on a un mode histoire. Alors, le scénario... il est un peu chiche, ça avance pas vraiment, il y a vraiment un fond de scénario, tu le sens pas vraiment, tu le vois pas vraiment passer, mais voilà, au moins il y a un mode histoire qui est assez agréable, et puis tu peux recommencer à chaque fois effectivement l'émission avec un personnage différent si tu joues seul, ce que je déconseille encore une fois, mais tu peux recommencer plusieurs fois l'émission. Donc voilà, moi je lui ai mis 7/10, je pense qu'il les mérite largement. Le seul point noir, effectivement, un contenu un peu léger.
D'accord, mais qui va s'étoffer
dans
les
mois
à venir.
Mais qui va s'étoffer avec l'arrivée
si vous raquez.
Des DLC. Personne n'a joué ici à Battleborn?
Absolument
Camille,
pas.
T'as dit que non.
Non.
Absolument.
Bah non. Non. Bah non. Il y a que toi. Désolé.
Il y a que toi.
Donc voilà. Ben moi, j'ai bien aimé. Il y a un bon rythme. Voili voilou.
Eh ben merci, écoute Carole, pour ce test de
je t'en prie.
Battleborn sorti le 3 mai dernier, c'est donc sur PS4, Xbox One et PC. Et vous le savez, comme chaque semaine, nous allons passer à autre chose parce qu'il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie.
Oh oui.
Eh bien, nous allons revenir sur les activités hors jeu qui nous ont plu cette semaine. On va commencer avec Camille pour rester un petit peu dans le thème du podcast.
La thématique.
Eh bien, on va parler encore de Première Guerre mondiale car toi, tu veux nous parler d'un documentaire en particulier.
Oui, alors un documentaire que vous connaissez peut-être qui s'appelle Apocalypse. Donc, c'est une série de documentaires qui est pas si. Sur France 2, alors il y a Apocalypse, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Verdun, Staline,
Verdun, d'ailleurs,
Hitler,
avec
ouais, et
très
Hitler,
réussi.
Voilà.
Ouais, ouais.
Et chacun est extrêmement bien fait. Alors,
toi, tu veux nous parler du Première Guerre mondiale.
Comment décrire voilà, moi j'ai parlé de la Première Guerre mondiale. Comment décrire ce documentaire? Pour faire simple, c'est un peu ce qu'on aurait dû montrer aux enfants, ce qu'on devrait montrer aux enfants, enfin aux enfants, aux adolescents.
Pour les terroriser.
ce qu'on devrait montrer à l'école, dans les cours d'histoire, aux adolescents, pour qu'ils prennent vraiment conscience de ce que c'est cette guerre. C'est un peu, si vous n'aimez pas le documentaire, bah justement, ça va vous faire aimer ce type de contenu. Ça n'a pas du tout la forme du documentaire classique, comme on pourrait le voir sur Arte, etc. C'est vraiment, c'est un esprit totalement nouveau. C'est l'acteur Mathieu Kassovitz
qui fait la voix off.
Qui fait la voix off. Il est extrêmement bien dans ce rôle-là. Ça va parfaitement bien. Alors, c'est un énorme, énorme, énorme documentaire qui a demandé tout de même 2 ans et demi de travail. Il y a 15 archivistes spécialisés en histoire qui ont travaillé dessus de tous les pays européens. Des contenus, des archives donc de France, d'Allemagne, d'Italie, etc., de Russie. Des archives qui étaient restées secrètes, entre guillemets, jusqu'à très longtemps. Donc il y a eu un gros travail de colorisation aussi, vous pouvez le voir à l'image pour les premiums. Gros travail de colorisation et aussi de son, parce qu'il y a des sons qui ont été rajoutés en post-prod, parce qu'à l'époque les caméras dans les années 10-20 ne capturaient pas le son, et donc c'est du son qui a été rajouté, mais le son n'a pas été rajouté comme dans un film, dans le sens où ça a été vraiment là ça a été étudié pour que ça reste dans un réalisme pur et dur.
Ça fait très documentaire.
Et honnêtement, à aucun moment on se dit ah ouais, mais ce son il paraît pas adapté du tout à l'image. Non, c'est à aucun moment c'est ça.
Et parce que ça a été fait dans les règles de l'art avec les véritables sons qui devaient
c'est ça.
Être. Voilà.
Et pareil au niveau de la couleur, c'est-à-dire que tout est respecté. C'est-à-dire que ça a été beaucoup d'historiens ont travaillé sur le sujet. Toutes les couleurs des uniformes, des habits, etc. C'est ce qu'on pouvait trouver, ce qu'on trouvait à l'époque.
Et pour ceux qui sont home cinéphiles, ceux qui ont des belles installations sonores à la maison, c'est vraiment hyper impressionnant au niveau du son.
Ah oui, c'est hyper impressionnant au niveau du son. Même la musique, il y a eu un énorme travail musical. C'est ça d'ailleurs qui fait que
le récit est tellement bien fait.
C'est tellement bien amené. On apprend énormément de choses sur ce conflit. Et c'est un peu ce que je conseille vraiment. Si vous avez des adolescents qui travaillent en ce moment en 6e sur cette période de la Première Guerre mondiale, ou en 3e sur la Première Guerre mondiale. Montrez-leur ce documentaire. Il est disponible en DVD et aussi en replay sur internet encore.
Et sur Netflix.
Ouais, ouais. Il est sur Netflix, lui.
Sur Netflix, t'as tout Apocalypse.
Sur Netflix avec Julien.
Ils y sont tous. Hein, t'as Première Guerre, Deuxième, Hitler, Staline.
Et montrez-leur ce documentaire. Ils comprennent leur cours vraiment très bien. C'est très bon complément avec les cours des profs. C'est vraiment génial. De bout en bout, on s'ennuie jamais. C'est fait d'une telle manière.
C'est des images que t'as jamais vues, quoi.
C'est des images qu'on a jamais vues, parce qu'en fait. Souvent on se dit bon voilà, ça va être des images en noir et blanc, ça va être
qu'on a vu et revu mille fois
parce qu'il n'y en a pas tellement finalement, et là on se rend compte que en fait les pays à cette époque ont enregistré énormément d'images mais qui n'étaient pas divulguées parce que la propagande empêchait de la divulgation de ce genre d'images. Évidemment on n'allait pas le gouvernement français, allemand, etc. n'allait pas montrer des images de mort, ça n'avait de mort sur le champ de bataille, c'est le public. Enfin, le peuple ne devait pas prendre conscience de ça. On ne devait pas montrer qu'il y avait leur famille qui mourait sur le champ en bataille, etc. Donc,
dans
non, ça a été juste, même jusqu'à très longtemps, jusqu'à les années 70, soit 80. Il y a des images qui sont pas sorties, qui n'ont pas été sorties en public. Et encore de nos jours, il y a par exemple des images des archives russes qui ont été dévoilées qui a que 2 ou 3 ans. Donc c'est vraiment du gros contenu qui est vraiment à voir. C'est vraiment à voir.
D'accord. Bah écoute, en tout cas, ça c'est sûr que ça colle très bien avec ce dont on a parlé en début, à savoir Battlefield 1, qui va revenir justement sur cette Première Guerre mondiale, après Soldat Inconnu, qu'il avait fait il y a quelques années.
Très bon titre.
Après ouais. Wings aussi, hein, ceux qui ont joué à Wings. Cette Première Guerre mondiale est en train
période de... qui était très peu traitée jusque-là, même dans le cinéma. Hein, c'était, y a eu le film de Kubrick qui a fait beaucoup parler à l'époque. Il n'y a pas eu énormément de films dessus.
Il y a eu le film avec Guillaume Canet là, oui, sur ce fameux trêve de Noël. Ouais.
Il y avait Joyeux Noël. Mm. Il y avait, voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de films. Il y avait
Un long dimanche
de fiançailles, hein, qui est un très bon film d'ailleurs, oui, sur ce sujet. Mais sinon, voilà, c'est très peu traité. Et des jeux comme Battlefield et des contenus comme ce documentaire permettent de prendre conscience de l'horreur de cette guerre. Et voilà, c'est le dernier gros conflit européen qui était une guerre conventionnelle. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'était une guerre d'élimination. Enfin, il y avait une partie, c'est une guerre d'élimination des peuples. Là, il n'y avait pas cet esprit-là. En fait, c'est une guerre conventionnelle d'armée contre armée. Mm. Donc, c'est vraiment très important. C'est vrai que ça a plus de 100 ans maintenant, et pourtant, par certains aspects, c'est encore d'actualité. Il faut s'en souvenir. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, surtout à faire partager. Surtout, je le conseille vraiment aux jeunes. Hein, c'est très important.
D'accord. Et ben, écoute, le message est passé.
Toi, le jeune.
C'est disponible donc en DVD sur Netflix. Ça s'appelle
Apocalypse, la
Première Guerre mondiale. On va passer à une autre horreur, on va dire, hein, Carole. Absolument. Une horreur cinématographique cette fois.
Absolument.
Non, c'est pas une horreur, mais disons qu'il y a un truc.
J'ai adoré ce film. Alors,
qui s'appelle Les Visiteurs 3
Quelle horreur. Non, pas du tout. Et ça me tente absolument pas. Alors, bouchez-vous les oreilles, hein, si vous avez pas vu le film, parce qu'on va quand même débattre.
On va spoiler tout de suite.
À mort. Mais c'est un film qui est sorti en 97. 96, pardon.
Attention.
L'exactitude.
Et qui s'appelle
Ultime Décision, un film que j'ai vu quand j'étais bien jeune, et que j'ai revu
toujours,
donc je suis toujours jeune, merci, ouais, mon plumeau, c'est adorable, et que j'ai revu donc récemment puisque Julien ne l'avait pas vu, et donc j'ai voulu lui faire découvrir parce que c'est un de mes films préférés. Un film d'action, Ultime Décision, avec Kurt Russell, bien sûr.
Et mais pourquoi le spoiler,
comme vous pouvez le voir,
de quoi, pourquoi
parce qu'on va raconter, on va parler, il y a un débat autour de ce film et je pense que c'est intéressant. On a Hercule Poirot dedans, je sais pas si tu l'as
vu. Oui, j'ai reconnu David.
Ceux qui l'ont pas vu peuvent avoir envie de voir,
son nom m'échappe, mais voilà, Hercule Spoiler Poirot, trop, donc l'acteur qui joue le rôle d'Hercule Poirot, qu'on voit sans sa moustache, est assez, c'est assez, ça interpelle.
J'ai plus son nom de famille.
Steven Seagal.
Et Steven Seagal, évidemment.
Steven
le gros
Seagal
bras,
qui était en gros. Homme. Son nom est écrit en gros sur l'affiche à l'époque où le film est sorti.
C'est ça. Et donc, nous, moi, j'étais une grosse fan aussi de Steven Seagal, qu'on voit plus, c'est bien dommage, qui était bien jeune à l'époque, qui était très beau.
Bah, il est bouddhiste maintenant.
Et puis il pèse 200
kilos.
Il
a un peu de mal à bouger. C'est un panda.
Il était au top. Kurt Russell aussi. Moi, j'adore cet acteur. Je pense que c'est un de ses meilleurs films. Mais il en a tellement des bons films.
Tu l'appelles Kurt Russell.
Kurt Russell, ouais.
C'est Russell.
Tu dis Russell, toi.
Ouais, plutôt Kurt Russell. Parce qu'on cas des Russell en général.
J'ai des soucis de prononciation. Toujours est-il que c'est vraiment un super film, donc qui va traiter de la prise d'otage dans un avion. Donc on a Halle Berry aussi, hein, qui était bien jeune à l'époque et
alors,
est déjà très belle.
Halle Berry.
Halle Berry, d'accord. Voilà. Oh là là.
Je vais tous se les faire.
Il va tous me les faire. Et comment on dit Julien Chiez?
Julien Chiez.
Ah, c'est bon. Bon, celui-là au moins je l'ai. Et donc voilà, c'est un film qui a un rythme vraiment insoutenable. Ça ne s'arrête pas une seule seconde. Mm-hmm. C'est bien joué, c'est bien écrit. C'est un peu kitsch, vous verrez, mais c'est comme pour tout, hein, quand on joue à des anciens jeux.
Ça pique
un peu.
Époque, hein.
Voilà, ça pique un petit peu les yeux au départ, mais après c'est comme pour tout, on s'y habitue et c'est vraiment vraiment bien réalisé, bien joué. Oui, ça tire dans tous les sens.
Ouais, quand tu vois la bande annonce sans le fond, c'est assez bizarre.
Ouais, ça fait un peu bizarre, mais c'est vraiment un très très bon film.
Je sors mon flingue, l'avion s'écrase.
Attention spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, que je vous conseille vraiment ardemment, Steven Seagal, effectivement, qui est donc sur la jaquette, enfin.
C'était sur l'affiche en gros avec Kurt Russell. Ouais.
Voilà, avec Kurt Russell, et il reste là combien? Allez, peut-être un quart d'heure, 20 minutes.
Même pas 10 minutes, je crois, il est à l'écran.
Non,
vous comptez chez vous.
Ça commence par un assaut, effectivement, puis après ils font appel à Kurt pour aller pour intervenir, etc. Mm. Et il arrive bien sûr dans ils arrivent pour rentrer dans l'avion avec un autre avion. Hein, pour monter dans l'avion, et puis il y a un problème, et puis Steven Seagal qui referme la trappe et qui dit vous y arriverez, et bam, il se fait choper, enfin il se fait emporter.
Et c'est terminé.
Voilà, c'était Steven Seagal. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. En général, quand on parle d'Ultime Décision, c'est le sujet qui revient.
Alors je ne sais pas ce que fait Julien. Julo, là, tu fais quoi exactement? Qu'est-ce que tu fous exactement là depuis tout à l'heure? Tu es en train de chanter en même temps que...
Parce qu'il veut pas entendre ce que je dis, parce que je pense qu'il a très envie de voir l'ultime décision.
Ah d'accord, d'accord. Tu voulais pas te spoiler, c'est ça?
Bah ouais. Si tu recommandes le film, je vais le regarder. Ah, donc bon. J'ai pas envie de faire
vraiment, je le recommande. Bref, donc on arrête de parler de ce dont on vient de parler, mais c'est vrai qu'il y a une... On va dire que c'est, ça fait... ça a, comment dire, ça fait débat, voilà, autour du film. Mais c'est un excellent film, je l'avais pas vu depuis très longtemps. Et ça m'a fait plaisir de le voir. Julien a adoré, donc s'il serait là, il pourrait vous en parler et vous le conseiller. Voilà, c'est vraiment un très très bon film, pour moi un des meilleurs de Kurt Russell, et puis un des meilleurs aussi de Steven Seagal, si on le voit pas beaucoup. Ouais.
Bon, son meilleur, je crois que c'est Nico, hein, mais
son
bon,
meilleur,
il faut,
faudra
le revoir aussi.
Mais en tout cas, voilà, très très bon film d'action pour ceux qui aiment le genre, à voir.
Très bien, ça s'appelle Ultime Décision et vous pouvez le choper pareil en DVD, je crois qu'il doit exister en Blu-ray.
Ou Critical Decision en anglais.
Et vous pouvez le trouver en VOD.
Critical Decision.
Critical Decision.
Je crois que j'ai vu marqué à l'écran.
Ah ouais, d'accord, ok, j'avais vu autre
Critical
chose.
Critical Decision, voilà.
Bon, on va passer au troisième enjeu de la semaine qui me concerne cette fois. On a parlé de Uncharted beaucoup ces derniers temps. Et bah justement, il y a un petit lien avec Uncharted concernant cette web série donc qui est sortie, si je ne m'abuse, en fin d'année 2015, vers septembre 2015, puisque dans cette web série qui s'appelle Con Man, eh bien on retrouve par exemple Nolan North. Voyez-vous, qui fait une apparition pas éclair, hein, il est présent dans plusieurs épisodes. Alors cette série, je vais vous faire un pitch rapide, c'est une série qui a été créée donc par Alan Tudyk, que vous pouvez voir à l'écran, c'est le monsieur blond là qui pilote le vaisseau. Alan Tudyk, il a connu, on va dire, sa plus grande gloire avec une série qui s'appelle Firefly. Vous savez, si vous suivez Gameblog, je suis un gros fan de Firefly, série de Joss Whedon qui avait été injustement annulée au bout de 12 épisodes diffusés, et certains qui n'étaient pas...
Alors que Joss Whedon est talentueux.
Exactement, et cette série est une des meilleures séries de SF qui ait jamais été faite, mais elle a connu un destin absolument abominable, même si ça s'est bien fini parce qu'il y a eu un film par la suite qui s'appelle Serenity, qui lui a... Bon, il n'a pas performé, mais au moins il a permis de boucler un petit peu le truc. Et en fait, Alan Tudyk a vu, au cours de toutes ces années qui ont suivi la diffusion de Firefly, que les fans... ils étaient très attachés à cette série qui pourtant n'a pas été n'a pas connu un succès incroyable puisqu'elle a été annulée très très vite, et il s'est servi en fait de ses expériences sur les différentes conventions, de toutes les histoires qu'il a glanées avec des fans ou avec le reste du casting de Firefly. Il s'en est servi pour faire une web série qui justement revient sur un mec qui a connu la gloire dans une série de science-fiction dans laquelle il jouait un pilote, exactement comme dans Firefly, et tout ce qui lui arrive quand il est en convention, toutes les conneries qui peuvent se passer avec les fans ou avec des gens qui vont s'incruster avec le reste du casting, dont Nathan Fillion, que vous connaissez bien si vous regardez la série Castle, et qui a joué aussi dans Buffy, évidemment. Il jouait Caleb dans Buffy à toute fin de la série, et donc qui jouait Malcolm Reynolds dans Firefly, qui lui, donc du coup, dans cette série, est le mec qui a connu un succès après la série. Enfin bon, on retrouve tout le casting de Firefly qui est réadapté un petit peu aussi à la sauce Con Man. On retrouve des tas d'anecdotes donc et des tas d'exemples de situations complètement
abracadabrantesque.
J'arrive pas à le dire. Abracadabrantesque.
C'est bon.
Dans lesquels aurait pu se retrouver, et s'est retrouvé d'ailleurs Alan Tudyk, hein, il le dit après en interview, lui qui aurait dû être dans Uncharted 4 mais qui s'est barré quand tout a changé. Et donc on se retrouve par exemple avec un il a une assistante. Moi, c'est le truc qui me font vraiment marrer, c'est qu'il a une assistante qui s'habille exactement comme lui, mais genre qui s'habille tout le temps comme lui, même quand elle ne l'a pas vu. C'est-à-dire qu'il ouvre la porte de sa chambre d'hôtel et il a la bretelle de son t-shirt ou de son débardeur qui est de travers, elle aussi, bizarrement. Il y a des tas de détails comme
c'est
ça
génial.
Comme aussi le fait que dans chaque bar du monde dans lequel il se rend, de bar d'hôtel, bar de convention, c'est Casper Van Dien qui est le serveur.
Bar de fer.
Casper Van Dien que vous avez vu dans... Vous ne voyez pas ?
Non.
C'est vrai ? Bah, le film de Paul Verhoeven dans l'espace là. Starship Troopers, exactement.
D'accord.
C'est le héros de Starship Troopers. Donc voilà, il y a un casting de ouf. Hein. Je pense à toi pour Battlestar Galactica. Tu aimes beaucoup.
Oui.
Il y a Tricia Helfer qui est dans.
La
dans
blonde.
Oui, la blonde.
Comme ça, tu t'en souviens. Hein.
Comme non, tu vas me dire qu'elle est jolie aussi. C'est
non,
ça
non, mais par contre, il y a Joss Whedon aussi d'ailleurs. Hein, si vous avez pu
non,
le voir.
Non, mais quelle
heureuse
Joss.
Non, mais en fait, il fait référence à un moment. Il dit ah tiens, j'ai rencontré une meuf. Elle ressemble beaucoup à la Cylon Canon. De Battlestar Galactica, et du coup tu t'entends pas ce qui est de l'autre dit au téléphone, mais il fait, puis lui il fait non l'autre Non, pas celle-là, l'autre. Voilà, à chaque fois il parle de l'autre, l'autre Cylon Canon. Effectivement, Trisha Helfer qui jouait numéro 6. Et il y a comme ça des tas de situations complètement dingues parce qu'il va y avoir enfin à un moment l'évocation du retour de la fameuse série annulée dans laquelle il jouait. Bref, c'est complètement tordant. Et Nolan North, donc, qui joue dedans, incarne l'espèce de roi de la mocap, le numéro 2 derrière Andy Serkis, qu'il n'arrête pas de tailler pendant toutes ses apparitions. Il a même une séance d'enregistrement de jeux vidéo à un moment où tu vois qu'il est vraiment à fond dedans. Il explique aussi sur scène pendant une convention qu'il a incarné à un moment le Zob de Dr. Manhattan dans Watchmen. Il explique oui, alors pour vous c'était juste un truc bleu qui pendouillait, mais pour moi j'ai essayé de lui apporter une âme, une vie, etc. Il dit ça avec un grand sérieux sur une scène. Bref, je vous conseille énormément de regarder ce truc. C'est des 13 épisodes entre 10 et 15 minutes, hein. C'est vraiment une mini-série, et c'est très très drôle pour les fans de Firefly et pour les gens qui sont habitués à la culture pop américaine et aux conventions de manière générale. Vous allez voir, vous aurez de quoi vous marrer avec ça. C'est disponible sur Vimeo, ça coûte environ 9€ la totale, et vraiment vraiment c'est très très drôle. Mais maintenant on va passer à quelque chose de sinistre, n'est-ce pas Julo?
Oui. Encore, parce que là c'était un peu trop drôle là, par rapport, ouais, aux deux premiers.
Quoique c'est très drôle aussi dans une certaine façon. On va parler de Penny Dreadful, Julo.
Tout à fait, parce que la saison 3 vient de commencer.
Elle est diffusée aux États-Unis, ça y est.
Elle
ça
est
commence
diffusée aux États-Unis et sur en France aussi, hein, sur Netflix.
Mm-hmm. À raison d'un épisode par semaine.
Un épisode par semaine, donc tous les lundis, un nouvel épisode de Penny Dreadful. Donc c'est une série qui, sur chaque saison, nous balance, je crois, 10 épisodes.
Ouais, 10 ou 13 épisodes.
Plus c'est 10 ou 13, ouais. Et c'est une série que j'adore. Je vous en avais déjà parlé en hors-jeu, hein, il y a quelques temps, c'était pour la première saison je crois. Mm-hmm. Et en fait ça se passe à Londres, tout du moins cette série va également se passer aux États-Unis, mais en gros à la base du pitch, ça se déroule à Londres 1800, époque victorienne, et époque de tous les mythes du loup-garou, Jack l'éventreur, qui n'est pas un mythe, hein,
Dorian Gray,
et ça mélange en fait tout ça, les vampires et tout ça,
il y a tout
mélangé. Penny Dreadful, qu'est-ce que ça veut dire? Un Penny Dreadful, c'était les à cette époque à Londres, on pouvait acheter dans la rue pour un penny des histoires d'horreur. Un peu cheap, un peu voilà. Et donc Penny Dreadful, c'est ça, c'est pour un penny une histoire d'horreur, et ça mélange tous les mythes qui sont sortis de ces Penny Dreadful dans une seule série.
Oh, c'est génial.
Très classe, j'allais dire graphiquement, visuellement,
ouais.
Avec un vrai effort sur justement cette thématique de l'horreur.
C'est très sombre, ouais.
Voilà.
Et Eva Green en plus.
Et il y a Eva Green.
Et Eva Green. Eva Green qui a la gueule de travers, hein, d'après Julo, qui n'est pas une beauté classique.
Qui n'est pas une beauté canonique, on va dire. C'est pas comme ça qu'on dit.
C'est très subjectif.
C'est pas un canon de beauté, justement.
C'est pas un canon de beauté.
Parce que,
n'importe quoi. Mais... Puis Josh Arnett, il est moche aussi, hein, on peut le dire. Hein. Mais Josh Arnett, c'est pas un canon de beauté.
Ah
non,
bah
plus,
non, c'est le vrai beau gosse.
Ah bah, oh, sans blague. Bah, c'est pareil, ouais, pour Eva Green.
Ben, je suis pas d'accord. Oh, moi, pour moi, Eva Green, c'est plus.
Vous
que
nous
ça
direz dans les
chacun
commentaires.
Ses goûts.
Non, mais ce qu'il comprend, ouais, pas, c'est que pour lui, je dis que c'est moins qu'elle est pas belle. En fait, je dis le contraire. C'est qu'elle est plus belle
c'est
qu'un canon de beauté classique.
C'est peu commun.
C'est pas une,
voilà,
blonde à forte poitrine qui a, mmh, la même gueule que toutes les autres blondes qui sont dans tous les films, dans Transformers, dans machin et dans le truc. Mmh. Au contraire, c'est une beauté pure et différente.
Beauté, voilà, naturelle. Voilà.
Mais c'est
donc
pas le sujet.
Saison 3.
Donc cette saison 3 démarre sur les chapeaux de roue, mais avec toujours ce côté un petit peu kitsch.
Ouais, un petit peu.
On est toujours assez épaté de voir que c'est un peu kitsch au départ, mais ça fait presque partie de l'ambiance de la série. Et plus ça avance d'épisode en épisode, plus l'histoire, les personnages, le personnage d'Eva Green d'ailleurs est assez génial, totalement déprimé dans cette saison 3. Elle est d'ailleurs dans les images qu'on voit là en face de son psy. Voilà. Mm. Et va introduire évidemment encore des nouveaux personnages. Est-ce que je peux le dire à ton avis ou est-ce qu'il ne faut pas le dire?
Non, je préfère éviter.
Donc jusqu'ici, dans les premières et deuxième saisons, on avait eu le loup-garou, Dorian Gray, le docteur Frankenstein,
sa créature,
et même ses créatures.
Ses créatures. Ouais.
On a eu des espèces de vampires. Et là, deux nouveaux personnages très connus de ce genre de littérature sont introduits.
Le barbier aussi, c'est Sweeney Todd, c'est ça?
Oui.
C'est un petit peu ce genre de.
C'est cette ambiance. Cette ambiance, oui. Ah, mais de toute façon, Eva Green, elle pourrait être dans n'importe quel
Tim Burton.
C'est très
gore. Tu vas voir, ça commence très gore dans la première saison.
C'est très Burton quand même. Ouais. Pas,
oui, oui, mais ouais. Oui, effectivement, c'est, très, c'est, stylisé, c'est stylisé aussi. C'est différent. C'est, mm-hmm. c'est pas du Burton, mais,
mais
c'est vraiment une ambiance comme ça, horrifique, qui est assez géniale. Et cette troisième saison, donc, commence toujours avec cette touche un peu cheap. Parce que vraiment, on a l'impression que c'est cheap. Première saison, deuxième saison, on commence, on se dit, waouh, ils mélangent tout. C'est un peu une espèce de
League des Gentlemen extraordinaire, mais, ouais. mais en version encore plus
mais
kitsch.
En version vampire, ouais, c'est ouais. ça. Avec ce côté, bah, c'était ouais, déjà kitsch, un peu kitsch, et finalement, c'est toujours rattrapé par le récit, le scénario et des séquences. Il y a beaucoup d'action, il y a de la baston, il y a des séquences qui font flipper, et des personnages vraiment hyper, hyper marqués.
Puis c'est bien joué, hein.
Et c'est bien joué, ouais. C'est très bien joué. On a aussi Timothy Dalton dans cette série qui a un des rôles principaux avec Eva Green. Et ils tiennent bien la baraque, hein, je dois dire, ouais. hein, franchement.
C'est exact.
Et en plus, donc, dans cette troisième saison, on sort un petit peu de Londres pour aller aux États-Unis.
Oh même un peu en Afrique, hein.
Et même un peu en Afrique. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande vraiment. C'est, si vous aimez le style, hein, horreur, Frankenstein,
bah moi, ça me donne envie
vampire,
je
etc.
Connaissais pas. Ouais.
Voilà, laissez-vous tenter. C'est magique. C'est diffusé sur Netflix en France.
Voilà. Showtime voilà. aux États-Unis, Netflix en France. Chaque semaine, chaque lundi, vous pouvez regarder le nouvel épisode pour l'instant. Et donc, Penny Dreadful, saison 3 avec Eva Green. Salut Eva. Bref, merci Julo,
merci
Camille,
toto.
Merci Carole pour ces enjeux.
Merci.
Et évidemment, j'ai envie de dire comme chaque semaine, merci pour ce podcast, Camille, Carole et Julo. Merci Poufy à la sono. J'espère que cette fois, il n'y a pas de problème de son, hein, Poufy. Wink. Merci à vous hein, qui nous avez écouté ou regardé hein, si vous êtes premium. On va évidemment vous demander comme chaque semaine si vous avez des commentaires, si vous voulez apporter de l'eau au moulin du podcast qui s'est écoulé et même des hors-jeux hein, si vous vous êtes senti concerné, n'hésitez pas hein, servez-vous-en, c'est juste en dessous de nous là, vous avez qu'à appuyer sur ajouter un commentaire, vous avez qu'à écrire votre commentaire et puis nous eh ben, on essaiera de vous répondre si on a dit des bêtises ou au contraire si vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous le dire. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout, eh bien,
jouez bien.
Ciao.
Ciao.
Salut.